mettent les fusils sur nous diriger. Contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes bien à l'écoute de l'émission de la CNT Éducation Région Parisienne, comme tous les deuxièmes mardis du mois. Et ce soir, donc, beaucoup d'invités avec nous dans le studio, puisque l'émission va se départager en deux temps. Donc, dans un premier temps, nous allons faire le point avec nos camarades de la section CNT de l'école spéciale et non pas supérieure d'architecture à Paris, qui sont en lutte depuis le 9 avril, mais quand même depuis plusieurs années. On y reviendra donc avec Thierry. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Stéphane.
Bonsoir.
Céline.
Bonsoir.
Et Greg.
Bonsoir.
Voilà, donc dans un premier temps avec Lesa et nos camarades en lutte. Et puis dans une deuxième partie d'émission, nous accueillerons des camarades qui travaillent sur l'écologie radicale contre le développement durable. Mystère, mystère. Pourtant, il y aura donc peut-être une discussion autour de... Il y aurait une écologie molle. On verra ça donc en deuxième partie avec Marc.
Bonsoir.
Et Paco.
Bonsoir.
Et puis toujours à la technique et aussi aux chroniques internationales et de lutte, Léo. Bonsoir Léo.
Salut.
Et Pablo.
Salut.
Voilà, et Alain qui nous rejoint.
Bonsoir.
Voilà. Et Esther. Et Esther, bonsoir Esther.
Salut, bonsoir.
Voilà, donc on est quand même au moins 5 à l'animation. Je connais pas beaucoup d'émissions qui peuvent jouir d'un luxe aussi génial. Mais tout de suite, donc on va partir avec Greg sur une chronique littéraire autour de la publication, qui va vous parler de la publication de Freinet à la lutte antifasciste, Espagne 36-39, récit de Marcel Diaz, écrit par Hugues Péterel et Sylvie Maugis, les éditions Atelier de création libertaire. Mais tout ça, Greg va vous le développer dans sa chronique. On fait une spéciale dédicace au professeur qui s'appelle Jean-François Chazeran à Poitiers, qui a été déplacé parce qu'il a eu la bonne idée d'organiser un atelier philosophie, comme il le faisait certainement très fréquemment avec ses élèves, après ou juste après les événements tragiques de janvier. Et Jean-François Chazeran, qui a donc été muté après avoir été suspendu. Et pourquoi une spéciale dédicace? Ben parce que en fait c'est pas très nouveau que nous qui faisons de la pédagogie pour de vrai soyons sanctionnés, merci Marc de m'aider, par notre hiérarchie, qui tolère quand même beaucoup mieux les pratiques réactionnaires que les débats pour de vrai et la parole qui engage et qui permet de déchiffrer le monde. Donc salut Jean-François Chazeran, cette chronique est pour toi.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est au milieu du rayonnage éducation de la librairie militante Quilombo que je suis tombé totalement par hasard sur ce titre engageant de Freinet à la lutte antifasciste, Espagne, 1936-1939. Pourtant sorti il y a près d'un an, l'ouvrage n'a semble-t-il pas été assez médiatisé. Le titre lui-même n'évoque pas ce qui le distingue de tant d'autres témoignages sur la révolution espagnole de 1936. Son auteur, ou plus exactement celui qui relate son parcours mis en mots par Sylvie Maugis et Hugues Péterel, a pourtant laissé une trace involontaire dans l'histoire de la pédagogie. Marcel Diaz, en effet, est ce petit garçon, élève dans la classe de Célestin Freinet, qui rédigea un jour un fameux texte libre qui allait révolutionner la vie de son instituteur et contribuer à sa renommée. Fils d'ouvrier agricole espagnol venu en France trouver du travail, Marcel connaît la misère et les humiliations qui sont déjà le lot des immigrés dans ces années 30. En 1933, les aléas du marché du travail conduisent sa famille à Vence. Trop turbulent, Marcel n'est pas accepté à l'école du village et c'est son frère qui propose de l'inscrire à Saint-Paul, là où enseigne un maître atypique, Célestin Freinet. Le frère de Marcel est anarchiste. Il connaît Freinet et leur discussion oppose le jeune libertaire au militant communiste. Marcel passe rapidement sur sa vie en classe. « J'ai un bon souvenir de cette période », écrit-il. À proprement dit, il y avait la liberté à Saint-Paul-de-Vence. Avec Freinet, je restais souvent, car nous étions toujours en liberté. Nous n'étions pas souvent dans l'école, et l'après-midi, chacun prenait ses devoirs et foutait le camp. Il faut dire que Marcel est un enfant un peu sauvage et rebelle. Être libre était ma passion, se souvient-il. Je m'en foutais d'apprendre. Apprendre, oui, mais ce que je voulais, et non ce que l'on voulait m'apprendre. Et du coup, l'école, il n'y allait pas souvent. Un jour, pourtant, il propose un texte, la retranscription d'un rêve, où il raconte comment il a assassiné le maire du village, proche de l'Action française, et comment il fut récompensé pour cet acte. Les adversaires de Freinet découvrent ce récit et décident de le placarder dans les rues du village sous forme d'affiche. L'affaire fera grand bruit, sera évoquée à la Chambre des députés, pendant que sous la plume de Charles Maurras, qui en fait le sujet de ses éditos quotidiens dans l'Action française, toute la réaction se déchaîne contre l'instituteur rouge et ses méthodes révolutionnaires. Sous la pression, Freinet est déplacé, puis décide finalement de démissionner de l'éducation nationale. Mais cette affaire a rendu son nom célèbre bien au-delà des frontières, et il connaît alors une notoriété qui vient donner un nouvel écho à ses pratiques et aux combats pédagogiques et sociaux qu'il menait depuis une quinzaine d'années. Quant à Marcel, il suit sa famille en Espagne quelque temps après, son père ayant été expulsé du fait de ses activités politiques. commence alors une nouvelle aventure, celle de l'engagement dans les milices de la CNT et de l'UGT sur le front, le combat pour une autre société, le refus de la militarisation, la découverte des trahisons des communistes et la vengeance implacable des fascistes. En 1936, Marcel n'a que 16 ans, mais il sait pourquoi il se bat et pourquoi il se battra toute sa vie. Il faut avoir en tête, en lisant ces lignes, précise-t-il dans l'introduction, que c'est par les yeux d'un adolescent que ce récit se construit. Je raconte comme tel ce que j'ai vécu avec mes 16 ans et la passion et l'amour d'un jeune qui voulait redonner au peuple les droits qui lui appartenaient, lutter contre la bourgeoisie et le clergé qui voulait maintenir le peuple dans l'ignorance et le fanatisme religieux, sans liberté de pensée, et empêcher la jeunesse d'avoir une éducation libre et sans haine. Combattre avec l'amour de l'humanité pour dérouter cette puissance fasciste qui voulait l'Europe entière, en commençant par l'Espagne républicaine. Quant à la question du lien entre cet engagement et son éducation avec Freinet, que l'actualité nous invite forcément à poser dans le contexte actuel, Marcel Diaz la récuse. Ils ont dit que Freinet fabriquait des révolutionnaires, ce qui n'est pas vrai. Moi, révolutionnaire, ce n'est pas Freinet qui m'a fait. Je suis né révolutionnaire, indiscipliné, tête de Turc. Ce qui ne nous empêche pas, de notre côté, d'y chercher malgré tout un lien. Voilà. Vous pouvez retrouver sur le site Questions de classe toutes les références des ouvrages présentés, ainsi que l'intégralité de cette émission des syndicats CNT Éducation. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures.
Radio Libertaire 89.4, donc merci Greg pour cette belle chronique, cette petite perle, parce que c'est vrai que le petit Marcel, si on a dédicacé cette chronique à Jean-François Chazeran, a déclenché un peu, enfin a déclenché, pas déclenché, mais a rappelé que c'est vraiment pas un fait nouveau que l'on soit sanctionné, voire licencié pour nos idées et surtout nos pratiques. Donc ça me permet de faire le lien directement avec nos camarades de l'ESA. Donc l'ESA, ça veut dire... Qui se lance ?
C'est l'école spéciale d'architecture.
Voilà, donc spéciale pourquoi ?
Alors, spéciale, plus d'un titre.
Spéciale parce qu'ils le disent, non ?
Oui, c'est ça.
Parce qu'elle est quand même supérieure, même si c'est pas dans le titre,
voilà,
c'est quand même
c'est
très largement supérieure.
En fait, c'est un établissement qui est la seule école privée d'architecture en France parmi le réseau des ENSA, les écoles nationales supérieures, pour le coup, d'architecture, qui sont assez nombreuses un peu partout en France. Et l'ESA, elle, est la seule école qui est constituée en association et qui ne fait pas partie officiellement de ce réseau. Elle est sous tutelle de deux ministères, malgré tout, la culture et l'enseignement supérieur, qui lui fournissent les habilitations, l'équivalence du diplôme avec le diplôme fourni délivré par les ENSA. Voilà, mais elle a un statut à part dans ce réseau.
Elle est essentiellement financée par les frais de scolarité des étudiants qui sont très élevés en fait.
Oui.
On va présenter un peu l'école et la composante sociologique un peu des étudiants à qui on a affaire. Hein. Pour être très clair, un semestre à l'ESA correspond à peu près à 4 200 euros. Voilà.
Voilà, donc deux spécificités, deux spécialités de l'école spéciale d'architecture, c'est son statut, la seule école privée qui délivre un diplôme d'État, celui d'architecte. Donc quand tu parles d'ENSA, Céline, tu dis en fait que toutes les autres sont des écoles publiques, donc d'État.
Oui.
Et que vous travaillez dans la seule école privée qui, malgré tout, délivre le diplôme d'État.
C'est ça.
Hein, et qui a donc un fonctionnement associatif. Je sais que vous avez beaucoup travaillé avec les étudiants et au sein même de votre activité syndicale autour de ce statut associatif qui, pour nous, libertaires, on va le dire comme ça, est plutôt engageant. Et puis la deuxième spécificité ou spécialité, c'est que elle est très chère.
Oui.
Voilà. Alors que les autres écoles d'État, même s'il doit y avoir des frais de scolarité, j'imagine, assez élevés, Parce qu'on prépare quand même le diplôme d'architecte, donc non, c'est pas si élevé que ça.
Je pense que ça correspond à peu près
aux frais de l'université.
Voilà. Donc, ni plus, mais enfin, pas moins non plus.
Pas moins, comment?
Voilà.
Parle en termes de reproduction sociale, etc. Oui, certainement que la composante sociologique est aussi assez bourgeoise. Mais il se trouve qu'à l'ESA, par contre, la limite, en fait, ne serait-ce que pour passer le concours, il faut quand même avancer 200 euros qui sont non remboursables. Donc ça met quand même un filtre, de toute façon, à l'entrée de l'ESA, qui annonce aussi la couleur. On travaille dans une école de gosses de riches, quoi, c'est clair.
Voilà, donc un semestre, il y en a deux, un semestre à 4000 euros, donc il y en a deux dans l'année, c'est ça?
Oui, c'est ça, ça fait une année à 8400 euros.
Voilà. Donc, du coup, dans cette école, vous intervenez à quel titre? Je sais que c'est un peu... vous êtes des personnels administratifs ou soit en bibliothèque. Bah, vous pouvez peut-être décrire un peu votre travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui commence. Non? Céline?
Alors, oui, donc effectivement, donc, nous quatre, la section présente, on travaille dans... on travaillait, pour le coup, dans ce qu'on a encore... tendance à parler au présent, mais c'est de plus en plus lointain, dans les services parapédagogiques. Donc effectivement, Thierry et moi, on était bibliothécaires. Greg était à la reprographie et Stéphane à l'atelier maquette. Donc voilà. Tous les services, les services qui sont les plus proches des étudiants.
Voilà, parce que quand on fait des études d'architecture, effectivement, la reprographie, la maquette et les ressources pédagogiques sont quand même...
ça peut aider,
oui.
Voilà. Nous, pour la bibliothèque, disons que voilà, nous, on considère qu'on était utile. C'est peut-être parfois moins visible pour les étudiants, mais on juge qu'on était utile, oui.
Ouais, j'imagine que tout le monde ce que doit se demander, c'est qu'est-ce qu'une section CNT fait dans une école, comme on vient de la présenter, une école de bourgeois. Je pense que c'est intéressant de développer comment ça s'est fait. En fait, certains d'entre nous sont dans l'école depuis un peu plus longtemps, mais il se trouve que nous, lorsqu'on s'est retrouvés, pour la plupart dans la section, on est arrivés quasiment à peu près tous ensemble, et on s'est rapidement rendu compte en fait qu'il y a un certain nombre de droits fondamentaux en fait des travailleurs et des étudiants n'étaient pas respectés en fait par la première direction en fait à laquelle on a eu affaire. Il se trouve que le cas le plus grave pour nous était celui de Stéphane qui est ici présent, qu'on a d'ailleurs nommé représentant de la section syndicale. En fait, il travaille à l'atelier maquette, et dans son atelier maquette, il s'avère qu'il y avait des problèmes de sécurité et d'hygiène qui étaient très importants. Quand je dis d'hygiène, en fait, il travaille essentiellement le bois avec des machines assez importantes, une scie circulaire et une là, corrige-moi quand même sur ces questions. Là, moi je suis un pauvre bibliothécaire.
Stéphane.
Il y a en fait tous les instruments d'une menuiserie classique, donc avec une scie à plateau, un lapidaire, des défonceuses manuelles, ponceuses, visseuses, perceuses, un petit peu tout. Plus on a aussi une défonceuse numérique qui crée énormément de poussière. Donc ça, c'était la première cause. Qui a fait déclarer cet atelier cancérigène il y a maintenant plus de 4 ans, donc par la médecine du travail, l'inspection du travail et la CRAMIF.
À cause des suspensions de...
À cause de la poussière de bois, qui est la deuxième cause de cancer après l'amiante, en fait. À ça, c'est ajouter les lasers après, en fait. Voilà.
Donc là, nous, forcément, constatons ça, il était impossible de ne pas faire en sorte que ça change, sachant qu'un collègue était en train de s'empoisonner au jour le jour en continuant son activité salariale. Donc on a essayé, je crois, donc dès 2011 et jusqu'en 2012, au moment où on a fondé la section, d'essayer de se battre par les courants normaux à l'intérieur d'une entreprise, hein, puisque bon, malgré tout, malgré le fonctionnement associatif, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, il s'avère que l'ESA fonctionne quand même comme une entreprise, la preuve, si on se retrouve aujourd'hui en licenciement économique. Donc on est passé par nos délégués du personnel, qui sont toujours présents aujourd'hui, délégués syndicaux CFDT, d'ailleurs les premiers à avoir signé l'autorisation de licenciement consultatif qu'on leur a proposé. Petite pensée pour eux, au passage. Donc du coup, on a eu quasiment une fin de non-recevoir, ils ne voulaient pas se mêler de ça, il n'y avait pas de comité d'entreprise, alors c'est pas qu'on soit fan d'un comité d'entreprise, mais le comité d'entreprise nous permettait de pouvoir monter un CHSCT, donc un comité d'hygiène et de sécurité, qui était très important pour nous, parce qu'il aurait permis d'intervenir directement sur l'atelier de Stéphane. Ça ne s'est pas fait, donc on a décidé à ce moment-là de... Alors, il se trouve que certains d'entre nous étaient déjà syndiqués individuellement à la CNT, et que les autres camarades collègues à l'époque de la section, enfin de l'ESA, se sont retrouvés autour de ce projet en fait, de monter une section syndicale pour lutter directement contre cette pour l'amélioration en fait de nos conditions de travail. Alors, il se trouve qu'à l'époque il y avait en plus des étudiants, parce qu'il était hors de question quand on a fondé la section que ce soit une section qui ne soit pas transversale, c'est-à-dire que aussi bien le personnel administratif que le personnel enseignant que les étudiants étaient les bienvenus dans cette section. Et il se trouve qu'à l'époque deux étudiants ont participé à la fondation de cette section. Donc là, on a vu qu'on ne pouvait rien faire avec cette direction-là, donc on a poussé pour qu'elle parte d'elle-même, en fait. Donc elle a démissionné, je pense qu'on y a quand même pas mal contribué. Il se trouve qu'il y a eu d'autres interventions aussi des étudiants. Et puis, comme j'ai beaucoup parlé, j'ai laissé la parole à Céline.
Dans le fil chronologique, quand cette première directrice a démissionné, c'était juste après avoir délivré la première sanction. Donc nous, on était déclarés depuis mai 2012. Elle a démissionné en août, en juillet.
Pendant l'été. Hyper efficace.
Ouais, c'est ça.
Non, on l'a travaillé depuis.
On y travaillait depuis un moment. Voilà, la création officielle ne fait que rajouter. Et elle a balancé la première sanction, donc à Stéphane, une première mise à pied de 3 jours qui a pris effet fin août. Donc mise à pied sans solde, évidemment. Donc c'est vrai que pour la section, les ennuis ont commencé tout de suite. En fait, on n'a pas attendu là ces dernières semaines, ces derniers mois pour avoir des soucis. Et donc alors il y a eu quelques semaines, une période qui a été relativement courte finalement, où l'école s'est retrouvée en panique parce que sans direction. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a fait une proposition d'une école. On avait réfléchi à un projet d'école sans direction, une école autogérée, puisque bon, on estimait que la cogestion avait montré déjà très largement ses limites à ce moment-là, et que c'était, il n'y avait qu'un pas à franchir en fait, qui était quand même pas bien, qui est quand même pas bien compliqué.
Voilà, que le statut justement en association, voilà,
c'est
ça, de
papier,
l'école,
c'était pas trop compliqué.
C'est ça, voilà, sur le papier,
voilà, c'est-à-dire que sur le papier, effectivement, plusieurs collèges, donc les étudiants, les enseignants, les administratifs et les diplômés, qui sont une force aussi dans la constitution de l'école. Donc les salariés étant extrêmement sous-représentés dans cette organisation-là, hein, ce qui fait aussi que du coup, on a assez rapidement estimé que les problèmes qui nous concernaient en tant que salariés, vraiment, ce qui relevait du code du travail, ne relevait pas forcément de l'Assemblée générale, puisque de toute façon, ces problèmes-là n'étaient pas entendus, pas écoutés. Bon bref, et du coup, on a proposé ce projet-là, qui n'a pas été évidemment retenu et qui a largement contribué à notre diabolisation par les directions qui ont suivi. Voilà, puisque on voulait tout détruire. En voulant détruire la direction de l'école, on voulait détruire l'école, bien sûr. C'est tout à fait logique de leur point de vue.
On en parlera tout à l'heure, mais on voit bien que la direction n'a pas besoin de vous pour détruire l'école.
Oui, voilà, effectivement.
Donc, ils savent très bien le faire tout seuls.
C'est sûr, ils se sont très bien débrouillés jusque-là sans nous. Et donc suite à ça, il y a eu un remplacement en fait, de la direction, un administrateur qui a été nommé provisoirement. Qui est resté un an à peu près et qui a fini par capituler aussi parce que c'était trop compliqué à gérer pour lui, il y avait trop de résistance, c'était pas, et puis pour le coup lui n'avait pas le poste officiel de directeur, même si il l'aurait fortement souhaité. Il s'est d'ailleurs présenté, ses premiers jours en tant qu'administrateur, il s'est présenté comme directeur, et comme il a été assez vite remis en place, il n'a pas tenu le coup très très longtemps. Et suite à ça, donc, ont été organisées des élections pour un directeur un peu plus officiel. Et en 2013, donc en juillet, juillet 2013, on s'est retrouvé avec un directeur qui était professeur à l'école depuis assez longtemps, qui est un petit architecte, en quête de renommée certainement, et qui s'est retrouvé donc élu. à la tête de l'école. Et là, ça, voilà, c'est la situation s'est détériorée très très rapidement et de façon très très grave, surtout puisque on est passé à des sanctions alors qui ont touché pour le coup vraiment tout le monde, les professeurs, le personnel administratif qui s'est du coup ligué. Alors il a réussi le tour de force de liguer contre lui des personnes qui étaient avant totalement inféodées aux anciennes directions et qui ont fini par même, pour certains, créer une section syndicale CGT. Donc lui, il a vraiment réussi le tour de force de se mettre tout le monde à dos, enfin tout le monde, une majorité de personnes à dos en assez peu de temps. Il est passé à des sanctions qui étaient vraiment des mises à pied à titre conservatoire, sans solde de plusieurs mois. Il a commencé les tentatives de licenciement pour faute grave, parfois de façon répétée sur la même personne pendant toute une année. Enfin, ça a été... l'acharnement, et en particulier contre les personnes syndiquées, et en particulier aussi contre nous, vraiment, c'est intensifié. Parce que ça n'a pas commencé avec lui, mais ça s'est vraiment intensifié avec lui à ce moment-là.
Oui, et puis on verra peut-être maintenant, enfin c'est comme vous voulez, mais que c'est vraiment pas par hasard si il a déployé autant d'énergie contre les syndicalistes que vous êtes... puisque apparemment il y a quand même certaines convictions idéologiques qui sont apparues entre-temps qui font que on peut avoir une lecture beaucoup plus radicale des actes qu'il a posés finalement.
Alors c'est un peu plus dans les cercles de la gouvernance haut placée de l'école, il y a effectivement des relations un peu suspectes avec l'extrême droite
et avérées.
Pas avec la direction, pas avec le directeur personnellement. Ça,
c'est dans son entourage proche.
Dans son entourage proche, mais effectivement, avec lui directement, a priori, non, hein, bien obligé de... Voilà. Par contre, dans les cercles, dans l'école, effectivement, et dans les cercles un peu dirigeants, oui, il y a des proximités et on s'est retrouvés assez récemment avec des militants du GUD qui nous ont tourné autour. On y reviendra peut-être dans l'actualité. C'est assez l'actualité vraiment proche, et notamment avec un tract dans notre panneau syndical qu'on a retrouvé alors que nous, on était effectivement plus dans l'école. Donc là, le message est passé, il est clair.
Voilà. C'était un peu pour planter le décor. Donc vous êtes tous les quatre ici. Il y a encore quelqu'un de votre section qui travaille dans l'école, n'a pas été touché
ces
mesures de licenciement.
On pense à elle, la pauvre Saïda, parce que du coup elle reste un peu isolée au boulot. On l'embrasse très fort parce que ça doit vraiment pas être facile pour elle. Elle faisait partie du personnel. L'une d'entre nous avec Stéphane, on a tous connu le petit harcèlement, les refus de congés à la dernière minute. Greg a connu ça, il avait pris ses billets d'avion, on lui refuse ses congés au dernier, la veille en fait. Céline, on lui a refusé je sais pas combien de congés, il y a eu des retraits sur salaire sans motivation, évidemment. Donc Saïda a connu même elle a vraiment été harcelée. C'était vraiment
et
terrible.
Et sanctionnée parce qu'elle
se révoltait sur ces questions-là. Et du coup, à chaque fois qu'elle a osé se plaindre, elle s'est faite sanctionner avec des mises à pied de 3 jours à la clé. Ouais. Et puis, comme toujours, malheureusement pour lui, le problème s'est encore cristallisé autour de Stéphane, parce que la question de l'atelier maquette sur laquelle on n'avait pas lâché l'affaire, parce qu'il se trouve que malgré tout, il continuait toujours à travailler dans cette...
cet environnement dangereux.
Exactement.
En fait.
Alors qu'il était, à chaque fois qu'il allait à la médecine du travail, il était toujours notifié apte avec réserve. Enfin, c'était plus possible en fait de continuer dans ces conditions-là. La CRAMIF était intervenue, la direction s'en foutait en fait, n'a jamais répondu. Il y a eu pourtant des devis de fait pour s'occuper en fait pour le mettre en œuvre pour une mise aux normes, ça n'a jamais été appliqué. Et la seule solution, alors quand l'inspection du travail en fait s'est saisie un peu plus du dossier, en fait la direction pour se débarrasser en fait du problème a décidé, alors il y a 8 mois de ça maintenant, a décidé de fermer purement et simplement l'atelier maquette. Alors bon, c'est
pas pour...
Oui, Stéphane.
Mais ils ont décidé de fermer l'atelier, pas pour des problèmes de santé de l'employé qui était dedans. Ils l'ont fermé parce qu'il y avait un tuyau d'évacuation, une VMC, qu'ils n'avaient jamais entretenu, qui avait été installé il y a 4 ans, et la fermeture officielle s'est faite parce qu'il y avait un danger d'incendie dans l'atelier. La santé du salarié et des gens, ça passait complètement à côté. Ils ont saisi une occasion parce qu'un prof de cette école est expert en sécurité. Donc le directeur lui a demandé de faire un tour et il lui a dit oui, c'est effectivement ce tuyau est empoussiéré. Et la poussière, en fait, quand elle est concentrée à si fort taux, peut engendrer une explosion et un incendie. Donc il s'est servi de ça, alors qu'il y avait juste à nettoyer ce tuyau, en fait. Hein. Genre, c'était la base, hein, le tuyau, il y a de la poussière, on le nettoie, c'est fini, on n'en parle plus. Il ne l'a pas fait et il a fermé l'atelier sous ce prétexte-là, en fait. Prétexte assez fallacieux, puisque en fait, du coup, c'était même pas du tout le combat que nous on avait. Alors, ça, c'est une VMC, ça doit être entretenu tous les ans par la direction. Ça n'a jamais été fait, c'était complètement stupide de fermer sur ce sujet-là. Et mais, du coup, lui, il a saisi ça, il a fermé l'atelier et il m'a mis en dispense de travail par la même occasion. Et j'y suis depuis donc 7 mois, en passant par une phase où il a quand même essayé de me virer pour faute grave alors que j'étais même plus dans l'école. Mmh.
Donc tu peux peut-être expliquer pourquoi, parce que c'est quand même du sens.
En fait, il a voulu me licencier parce que j'ai parlé avec les instances supérieures de l'école. C'est-à-dire que comme lui, depuis des années qu'il est là, en fait, ne répond pas à mes courriers, ni aux courriers du syndicat, ni à rien, je me suis adressé en fait à l'AG et au CA, en fait, les gens qui sont censés être au-dessus de lui. Apparemment, il n'a pas apprécié que je critique son travail auprès de ses employeurs à lui. En fait, lui, il se permettait de le critiquer, mon travail auprès des élèves. Et il n'a pas du tout apprécié que je critique son travail. Et pour ce motif-là, il a essayé de me licencier pour faute grave.
Et puis ça intervenait après 6 mois où il t'avait laissé sans travail, avec une dispense d'activité, certes, mais où tu n'avais aucune idée de ce qui allait t'arriver au bout de ces 6 mois. Je veux dire.
Exactement.
Il te reproche simplement de t'adresser à des instances supérieures pour demander ce qui risque de t'arriver.
Parce qu'il faut savoir que lui n'est qu'employé aussi, hein. Il a été élu par le CA et l'AG, il n'est pas non plus le maître absolu des lieux.
Ouais, enfin, là on n'est pas tout à fait d'accord, Stéphane. Là, mais bon, en l'occurrence, il est le maître absolu puisque c'est lui qui nous fout à la porte.
Donc, mais dans le fonctionnement de l'école, Stéphane s'appuyait sur à nouveau le fonctionnement théorique. Oui, mais on connaît bien ça, nous aussi, à l'éducation nationale. Il y a toujours le petit maillon de l'inspecteur ou de l'inspectrice qui se sent lésé quand parfois on veut. Passer au-dessus ou s'adresser directement à la personne juste au-dessus, bon, ce sont des susceptibilités, même si là, on peut s'accorder pour dire qu'il est effectivement ce directeur avec beaucoup de pouvoir, mais parce que aussi, c'est toujours la même chose, on a beaucoup de pouvoir parce que les autres voulaient savoir beaucoup de pouvoir. Donc il y a aussi des complices.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que la cogestion, c'est l'analyse qu'on a faite par rapport à l'autogestion, c'est que la cogestion, elle conduit toujours à cacher, en fait, le fait que les côtés les plus iniques, les plus autoritaires de la direction, elle a toujours camouflé ça. Dire que Bouvard, certainement, il est plus autoritaire.
C'est
le directeur actuel. Il est certainement plus violent et plus autoritaire, mais ça ne fait que, en réalité, ce qui se passait déjà sous les deux différentes directions, c'était tout à fait tout aussi autoritaire. Stéphane n'était pas plus à l'abri, en fait. C'est ce mode de gouvernance qui amène à ce système de représentation qui installe des directeurs autoritaires et qui ont un pouvoir absolu, qui s'arrogent un pouvoir absolu. Là encore, de toute façon, tous les recours, dans le cadre, on en reparlera tout à l'heure, mais dans le cadre de la procédure de licenciement qui nous concerne tous là, je suis désolé, mais tous les organismes, enfin toutes les instances de l'école ont été mises en branle, et pour autant de ce point de vue là on n'arrive pas à le faire changer d'avis. C'est bien pour ça qu'on s'était opposé à cette question. On a essayé, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à l'association, c'est vrai qu'on s'était investi à un moment dans des tentatives de cogestion. Stéphane a beaucoup travaillé personnellement, il s'était beaucoup investi, je pense qu'il le paye aussi dans l'association en tant que représentant à l'AG du personnel administratif. On a vu à un moment les limites de ce travail-là, et c'est dans le travail syndical qu'on arrive à, malgré tout, à les déranger le plus. Mmh. Et on verra d'ailleurs pourquoi je pense qu'ils ont pris cette décision-là.
Alain, tu veux intervenir ?
Non, c'était par rapport au statut de l'association qui vous faisait penser que vous auriez pu autogérer cette école. Il faut le rappeler, dans le secteur social et santé dans ce pays, beaucoup de structures pour enfants ou adultes handicapés sont gérées par des types d'associations comme ça. Elles n'ont jamais été très autogestionnaires. Hein. Les assemblées générales sont souvent fantômes et derrière le conseil d'administration qui est normalement nommé par l'assemblée générale, on a des actionnaires, on a des fédérations de parents d'enfants handicapés par exemple pour le secteur social. Et donc on voit bien que ce statut loi 1901 est complètement faussé. On a là l'exemple d'un patron de choc, c'est tout.
Oui, complètement d'accord.
Bon, eh ben on va peut-être faire une petite pause. Donc Thierry, tu veux bien nous présenter
Oui, ben on a plaisir de vous présenter des copains puisque c'est le groupe de l'Arabia. D'ailleurs, on les embrasse tous. Hein, j'espère pas les oublier. Renaud, Serge, Eric, Jean-Marc. On leur lance le morceau. Il faudra que ça change de leur dernier album et ils nous ont déjà fait le plaisir d'un concert de soutien et un prochain concert de soutien. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Sera organisé le 20 juin. Voilà. Il faudra que ça change.
Bien que ça change. Il faudra bien que ça change, la bêtise se met, la banquise qui se défait, les banques qui font la loi, les enfants en prison, la mafia sur le pont, la morgue des bouffons, les idiots qui pérorent, le peuple qui s'endort. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Il faudra bien que ça change, la vie sous les omiles, les rêves qui se résignent, les gamins qu'on abîme, les émissions débiles, les élus sans parole, les promesses qui s'envolent, le mépris des gagnants, le temps des colonies. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Ça change les murs et les frontières, les rafles et les charters, les droits d'homme en papier, les sans-papiers sans droit, les frayés léopards, les réseaux en Afrique, les petits arrangements et les gros paquets de fric. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Il faudra bien que ça change, les renvois d'ascenseurs, les ascenseurs qui lâchent, les cités qu'on oublie, la mémoire qu'on détruit, le foutage des quartiers, les parties de flashball, la gestion par la peur, la pêche aux électeurs. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Comme idéal, l'auto comme espoir, la foi dans les marchés, le marché de la foi, la messe économique, les experts médiatiques, la raison qui applique, le bonheur cathodique. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport.
Okay. Radio Libertaire 89.4, vous êtes bien à l'écoute en direct de l'émission de la CNT Éducation Région Parisienne. J'ai oublié de le dire, donc je rappelle quand même le numéro au moment où j'y pense, parce qu'après à chaque fois j'oublie. Donc vous pouvez nous appeler de préférence pendant les pauses musicales, mais sinon on vous répondra quand même au 01 43 71 89 40. Et donc là, nous sommes depuis le début de l'émission, à 8h30 à peu près, en train de balayer un peu le décor de l'école spéciale d'architecture, où une section syndicale CNT et CGT, tout simplement, est en procédure de licenciement. Ben voyons, il n'y a qu'à pas se gêner. Donc on reprend la discussion autour de ce patron de choc. Et donc, si vous voulez bien nous décrire votre situation maintenant. Et puis la lutte aussi qui a été initiée maintenant de manière très ouverte et plus large, très frontale, depuis le 9 avril. fameux jour de manifestation contre la loi Macron, où vous avez appris, donc, c'est-à-dire fameuse loi qui va quand même donner beaucoup plus de pouvoir...
Ah, c'est l'ironie du sort, en fait.
Au patron de choc. Mmh. Donc, vous étiez en manif, ou en mobilisation, ou voilà. Et là, vous apprenez que...
Alors, c'est d'autant plus ironique que... ce directeur, quand il est arrivé en 2013, il a tenté de faire une réunion du personnel administratif. Et comme c'est quelqu'un d'un peu nerveux, il s'est mis à crier. Bon, bref, et ça, c'est la réunion, c'est un petit peu mal passé. Et depuis, on n'avait plus jamais eu de réunion. Oui. Depuis ce jour-là, il s'est plus jamais passé une seule réunion, ou en tout cas, pas des réunions auxquelles on était invités. C'est sûr. Et là, boum, voilà, grève, loi Macron, réunion. Donc bon, déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Et effectivement, donc on marchait tranquillement, tranquillement en criant des slogans, bien sûr. Des...
Oui, bien sûr,
on sait. Évidemment. Et donc on reçoit effectivement un coup de fil et puis toi t'es licencié, toi t'es licencié, toi aussi, ah oui, donc toute la section, d'accord. Et puis voilà, un tel aussi, ah oui, donc toute la CGT avec, bon. Ok, la manifestation se termine donc sur cette note. Et le 10 avril, le vendredi, le lendemain, donc on arrive pour travailler. Et au bout de 2 heures, 3 heures, voilà, en fin de matinée, donc là je raconte notre expérience, parce que donc avec Thierry, à la bibliothèque, on a vu arriver.
On est inséparables, je te
dis. Oui, c'est ça,
c'est comme ça.
Même pendant les entretiens, même pendant les entretiens, ils nous séparent pas, donc ils nous ont fait un lot pour nous deux. Ils ont reçu tout le monde individuellement, sauf nous, hein, qu'ils ont reçu à deux, certainement pour s'épargner la peine de nous voir deux fois. Donc ils sont venus nous chercher à la bibliothèque pour nous annoncer qu'ils allaient nous recevoir en entretien, donc un entretien informel, puisqu'on nous a tout de suite demandé évidemment si on pouvait se faire accompagner, si on devait demander à être convoqué officiellement, etc. Donc non, c'est un entretien informel. Et puis bon, en nous rajoutant aussi par-dessus le marché qu'on n'avait pas prévenu, on n'a pas posé de préavis pour notre absence de la veille, et que c'est pas gentil quand même.
Ce qui est ridicule, hein, puisqu'on a pas, le syndicat avait déposé un préavis national et qu'on n'a pas déposé un préavis. Mais bon, ce qui vous donne une idée quand même de la connaissance du droit du travail au sein de l'ESA.
Non, mais on a bien saisi le patron de choc.
Voilà. Et donc, ce jour-là, donc à part nous qui avons été reçus à deux, parce qu'ils ne peuvent pas que ce soit sauvé autrement, tout le monde, tous les salariés ont été reçus individuellement, et on nous a tous fait signer notre dispense de travail. Et donc, c'était, en gros, tu prends ta veste et tu t'en vas. Et
avec
donc,
la remise de convocation, voilà, en fait, pour l'entretien
pour l'entretien préalable le 21 avril.
Le 21 avril.
Et donc, on nous a raccompagnés tous physiquement pour être sûr qu'on ne se perde pas en route jusque sur le trottoir, et donc on s'est tous retrouvés comme ça dans la rue.
Alors les quatre, là, Greg, t'as eu l'entretien juste avant, juste après,
ouais,
juste,
pareil,
avant.
Ouais.
Ouais, juste avant. T'as été raccompagné aussi comme ça après 19 ans
Je lui ai d'abord expliqué que je connaissais le chemin, donc j'ai commencé à me débrouiller tout seul.
Parce que ça fait quand même 19 ans que, oui, voilà, 20 ans,
donc, oui. Oui, effectivement, je connaissais le chemin, mais il m'a quand même suivi, parce que je pense qu'il voulait vraiment s'assurer qu'on partait, et puis surtout, je pense qu'il voulait s'assurer qu'on ait peu de contact avec les étudiants. Voilà. Donc oui, je me suis retrouvé au bout de 2 minutes, après 20 ans de boîte, sur le trottoir.
Raccompagné Manu Militari. Et toi, Stéphane, c'était quand? C'était après?
Stéphane était en
moi. Ah, oui, c'est déjà vrai. Un dispense. Tu sais, épargné.
Mais toi, comme c'était pratique.
T'étais plus en dispense, ouais, c'est plus.
Ah non, j'étais là, oui, c'est vrai.
T'étais encore en mise à pied à titre conservatoire, puisque toi, ils avaient encore cette procédure de licenciement pour faute grave.
Sauf qu'ils m'ont pas répondu quand ça s'est arrêté, en fait, et ils se sont dit que c'était trop compliqué parce que le motif n'était pas vraiment quand même super carré. Donc ils se sont dit on va pas lui répondre et on va directement le mettre dans la charrette avec les autres. C'est beaucoup plus simple parce que comme ça, on en a 9, on en a pas 10, donc on est bien. Et oui, et sans me prévenir, par contre ça c'était vraiment délibéré à mon entretien, on a demandé, il a dit non, mais ça c'était un choix, on voulait pas vous prévenir. Ah d'accord, super. Bon bah vous me laissez comme ça chez moi.
Ils vous ont fait la même chose pour les militants de la CGT. Vous êtes retrouvés tous vendredi à midi dans la rue.
Oui. Alors sauf deux qui ont été. Alors eux, ils ont même pas attendu. La direction n'a même pas attendu d'annoncer ça en réunion. Deux d'entre eux ont été, je crois, dès le jeudi matin, dès le 9 avril au matin, ils sont arrivés. Et alors après, évidemment, j'étais pas là. J'étais. Donc on n'a pas le détail. Mais ils ont été même empêchés de rentrer dans leur bureau.
En fait, il se trouve que ce sont des. Enfin, pour décrire un peu les camarades de la CGT. Et il se trouve que ce sont les cadres en fait de l'école et qui sont sur des postes peut-être plus stratégiques en fait que nous, puisque nous on est sur des services parapédagogiques, et il se trouve qu'il y en a un qui est donc à la sécurité générale de l'école et l'autre qui est à l'informatique. Donc du coup ils ont été saisis, en fait ils ont fait constater par huissier apparemment, ce qu'on a compris, la remise des clés, les badges,
le 9 avril
en fait. Et donc ils les ont accompagnés.
Un serrurier aussi qui a changé toutes les serrures devant eux.
Oui, quand on parle de violence et d'autoritarisme avec le dernier, c'est assez énorme.
Voilà, mais ça s'arrête pas. C'est grosse quand même.
Donc grosse surprise.
Très très violent.
Sauf qu'on se dit tout de suite, en fait, on réagit parce qu'on se dit tout de suite, bon voilà, on est sur le trottoir. Bon, c'est pas qu'on s'y attendait pas, mais enfin. Quand on monte une section CNT, malheureusement aujourd'hui dans le monde du travail, et qu'on fait du syndicalisme de combat, d'action directe, il se trouve qu'on se prépare quand même à ce genre de choses. Bon, pas tous d'un coup, c'était vraiment quand même très violent et très surprenant. Mais bon, on a rebondi tout de suite, on s'est dit bon, il faut qu'on se retrouve, ils nous laissent nous défendre non pas à l'intérieur mais à l'extérieur. On s'est tout de suite mobilisé pour aller écrire, on s'est retrouvé entre nous, on est allé au Vignoles, le siège de la CNT parisienne, et on est allé écrire un tract pour aller le diffé devant l'école dès le lundi suivant. Donc le lundi suivant, on s'est pointé à 4, les 4 militants de la CNT qui font partie de la charte des licenciés. Et on a reçu, donc on s'est mis devant l'école, on a commencé à differ, les étudiants qui avaient débrayé aussi de leur côté, parce qu'ils ont été quand même très choqués par ce qui s'est passé, ce à quoi il faut quand même rendre hommage, parce que je commençais un peu méchamment en disant que c'est une école de bourgeois, une école de gosses de riches, mais il faut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui malgré tout ont été très choqués par ce qui s'est passé, et se sont tout de suite mobilisés, ont installé fortement, puisqu'il y a eu une couverture presse assez importante. C'est un peu inhabituel. Oui. En plus, dans les beaux quartiers, on est situé dans le 14e, on est en face de la Fondation Cartier. Bien sûr que ça.
Une grande banderole
qui réclamait la démission de la direction, très visible depuis l'extérieur, et un gros mouvement à l'extérieur, puisqu'ils ont. Ils ont en fait déplacé les cours pour les faire à l'extérieur. Ils ont fait des AG aussi. Enfin, il y a même eu un mouvement. Nous, on espère, qui portera les fruits, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se sont faites, même en termes de pré-autogestion. Enfin, nous, on reste quand même attachés à cette idée-là. Ils se sont auto-organisés collectivement pour mener cette lutte et notre défense. C'était vraiment très clair sur ce point de vue-là. Donc, ce lundi, on arrive avec notre acte. Accueil très chaleureux. Ils prennent le tract, ils restent avec nous. Cela dit, au bout de 30 minutes, surprise, on voit tourner autour de notre rassemblement des militants très identifiés en fait du GUD qui tournent très régulièrement en formant des espèces de patrouilles en fait par deux, avec à chaque fois en fait un élément de leur groupe, enfin de leur milice, je sais pas comment on peut les appeler, très très identifié, et à chaque fois un nouveau militant en fait qui les accompagnait pour bien nous faire comprendre en fait qu'ils étaient plusieurs et que le nombre augmentait. Donc donc ils nous invectivaient en plus du regard, on voyait bien qu'ils cherchaient à nous déstabiliser. Alors ils nous ont pas, ils nous ont pour autant pas abordé, mais on sentait que la pression était quand même de plus en plus forte. Donc là on a appelé au Vignoles où le lundi après-midi il y a une permanence, et les camarades des Vignoles nous ont dit que c'était pas la peine d'insister pour aujourd'hui puisqu'on avait rien prévu. Vraiment on était juste venu, on était à peine identifié CNT, on était vraiment venu en réaction directe en fait pour protester contre notre licenciement. Donc on est rentré au Vignoles et on a réécrit un nouveau tract pour le lendemain, puisqu'il n'était pas question de laisser la place aux fachos. Donc on est revenu le mardi, mais cette fois-ci par contre on avait organisé un tout petit système de sécurité pour nous. Enfin, en tout cas, il y avait des camarades qui guettaient un peu aux alentours. Et les militants du GUD sont revenus, ont recommencé à nouveau à tourner autour du rassemblement. Un peu plus nombreux cette fois-ci, ils sont passés à un moment, ils ont fait une sorte de barre d'honneur, ils sont passés à 4 ou 5. On a appris par la suite, puisque nous on a levé le camp à 18h, il y avait une assemblée générale de l'école qui se tenait à 19h le soir, il me semble.
Et voilà, donc ça c'était le mardi qui suivait le 9 avril.
C'était le mardi qui suivait le 9 avril, oui.
Voilà. C'était 4 jours après. Mmh.
Et les militants certains militants du GUD en fait sont rentrés dans l'école, et ont été identifiés par certains étudiants, ont été raccompagnés à la sortie, et un journaliste de l'Humanité a rencontré l'un de ceux qui était le plus connu, le plus identifié, et lui a demandé ce qu'il faisait dans l'école. Et lui a répondu qu'il était venu parce qu'on lui avait demandé. On est resté là. Mais
donc ce soir-là, il y avait une AG de l'école.
Hein, oui, oui.
Et donc il y a quand même des questions qui ont été portées. Il y avait beaucoup de gens.
Oui, elle a été un peu mouvementée a priori, mais enfin là, c'est peut-être pas. D'accord. Oui, la démission de la direction était effectivement à ce moment-là à l'ordre du jour, mais
en fait, Stéphane. L'AG, les élèves avaient commencé un gros mouvement aussi au niveau de leurs parents, et ainsi de suite. Ouais. Un gros mouvement au niveau d'eux-mêmes, en fait. Ils sont présentés. Le nouveau bâtiment de l'école fait 8 étages. Ouais. Il y avait des élèves et des parents dans les deux escaliers qui mènent en haut, de haut en bas. Ouais. Tout le monde voulait assister à cet AG, tout le monde voulait. Ils ont essayé de mettre un gros coup de pression. Ouais. Sauf qu'ils se sont trouvés face à des gens qui, pour une fois, étaient procéduriers. Et qu'on dit que les parents n'avaient pas le droit d'être là parce qu'ils n'étaient pas membres de l'association, qu'on essayait de dire que tous les gens devaient partir parce que la salle où ils faisaient l'AG était trop petite. Donc les élèves se sont battus et ils ont tenu l'AG dans le hall de l'école. Ça a été assez houleux apparemment d'après, mais nous on n'y était pas, donc on n'a que des bruits de couloir. Et ça s'est soldé par aucune réponse de la direction à ce moment-là. Quoi. Ça n'a servi qu'à montrer leur mobilisation, ce qui est déjà pas mal. Mais ça n'a pas fait avancer le schmilblick, il n'est pas revenu en arrière, il n'a pas dit qu'il faisait une erreur, au contraire, pour lui, il était dans son bon droit, et que l'école allait, s'il ne faisait pas ça, en fait, l'école allait couler, quoi. C'est complètement stupide, puisque c'est une école qui a d'énormes réserves financières, en fait.
Greg, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça va. Donc, en fait, sur cet AG, il serre les dents, il commence quand même à divulguer que c'est pour motif économique, on ne l'a pas dit depuis le début, donc
il argumente.
D'accord, donc il argumente qu'en fait, vous êtes trop de salariés et qu'il faut dégraisser vraiment.
On parle d'une restructuration du personnel administratif.
Voilà, et il se trouve que ça tombe sur 4 militants de la CNT et 5 de la CGT. Bon, c'est le hasard.
On a fait des maquettes, une reprographie et des bibliothèques, ça sert vraiment à rien dans une école d'architecture, c'est évident.
C'est ça. Donc, du coup, après, on a continué un peu. Oui, la mobilisation.
Donc, le 21 avril. Donc c'était le jour, alors, ce qu'on a appelé entre nous l'abattoir, puisque en fait tous les entretiens préalables au licenciement économique se succédaient le 21 avril de 9h jusqu'à 18h. Donc la CNT a appelé un rassemblement qu'on a appelé festif avec buffet libertaire devant l'école, ce qui nous a permis, malgré l'enjeu un peu dramatique de la journée, en fait, d'être porté par la solidarité et la fraternité de nos camarades qui nous ont soutenus, donc, dont beaucoup sont autour de cette table. Et par contre, la journée a commencé quand même par une désagréable surprise, puisque j'accompagnais Greg, qui était le premier de la section, en fait, CNT, à aller à son entretien. Et en pénétrant dans l'école, en jetant un coup d'œil à notre panneau syndical, on s'est aperçu qu'en lieu et place de notre tract dénonçant les lois Macron et annonçant la grève du 9 avril, se trouvait un tract du GUD.
Voilà. Rappeler quand même, le GUD, c'est le groupe Union Défense, un groupuscule d'extrême droite.
Interdit, dissous.
Alors qui a été reformé. Interdit, il me semble, qui a été reformé.
Oui, mais bon. Oui.
Ah non, mais ils sont extrêmement violents, bien sûr. Oui.
Comment, Esther? Oui, c'est ça. Bon, et donc là, vous avez défilé un par un.
Il a d'abord demandé des explications au directeur pour Stéphane. Le tract du GUD. Il a d'abord demandé des explications au directeur pour le tract du GUD, en fait, qui avait rien à faire dans notre panneau syndical. À un moment donné, c'est un panneau syndical. Le directeur lui a répondu qu'il n'était pas responsable des panneaux syndicaux. Donc Thierry lui a dit, excusez-nous, mais vous nous avez foutus dehors, donc comment vous voulez qu'on s'en occupe? Donc c'est peut-être à vous quand même de vous en occuper une fois que vous avez viré les syndicalistes, ou alors, je sais pas quoi.
Ok.
Et oui, donc comme Stéphane l'a dit, ils sont défaussés en fait sur la question, disons que c'était pas lui qui s'occupait des panneaux syndicaux, et que de toute façon, évidemment, il n'avait rien à voir avec ça. Hein, il s'est défaussé aussi sur l'aspect idéologique du GUD.
L'école était ouverte et que tout le monde pouvait faire ça. Ah oui, sauf que le jour où il nous a reçus, l'école était truffée de vigiles, en fait. Donc tout le monde peut rentrer dans cette école, sauf les salariés, apparemment.
Céline, tu voulais
Non.
D'accord. Donc.
Oui, donc il nous a donc pendant les entretiens, en fait, il nous a exposé à nouveau son projet de licenciement économique. Alors c'est vrai que on est obligé quand même de dire que dans le cadre de Greg, qui était, comme tu le rappelais tout à l'heure, avec 20 ans d'ancienneté, il s'est trouvé que on était obligé de lui poser la question, en fait, de lui dire, mais est-ce que dans l'ordre des licenciements, je veux dire, même si on admet que son licenciement économique, dans leur logique bourgeoise capitaliste, d'accepter comptable gestionnaire de la masse, je mets des gros guillemets, salariale, est-ce que les 20 ans d'ancienneté de Greg étaient rentrés en ligne de compte? Ils m'ont rétorqué qu'ils y avaient été sensibles. Voilà. Mmh. Voilà le commentaire
quand on leur a posé la question pour chacun, du coup, à chaque entretien de la mise en dispense. Mmh. Donc pourquoi on avait été empêché, effectivement, de continuer à travailler, le temps de la procédure, jusqu'aux entretiens, etc. Bien sûr, c'est le critère humain. C'est le critère humain de l'entreprise. Facteurs. C'était pour notre bien, parce que c'est pas très bien d'avoir des gens en mauvais état. Hein, je cite. Et que pour eux aussi c'était mieux. C'était le critère humain pour eux aussi. C'était plus sympa de pas nous voir.
Ouais. Oui, parce que dans le cadre d'un licenciement économique. C'est tout à fait inédit, en fait, une dispense d'activité, puisque elle est somme toute absurde, en fait. Elle s'apparente plutôt à une sanction disciplinaire, d'éloignement pour la mise en danger, soit des personnes, soit de l'institution. Là, il se trouve que c'est complètement inédit, puisque il parle d'un licenciement pour motif économique, mais il continue à payer des personnes qui le met en dispense d'activité. Enfin, c'était tout à fait étrange. Ce qui prouve bien le caractère de répression syndicale qui est en fait à l'œuvre véritablement dans cette affaire.
Oui, parce que ça, c'est donc sur le motif syndical, juste pour sa réponse, leur réponse à cette question, c'est de dire que à l'administration, tout le monde est syndiqué. Seulement, de fait, aujourd'hui, tous les syndiqués qui restent sont syndiqués à la CFDT qui signent nos licenciements. Voilà. Ah.
Merci pour cette précision utile. Donc il reste quand même un syndicat.
Oui.
Hein, il faut le dire. Il en reste un.
Oui. Ah, mais de toute façon, il s'accroche. Oui, hein, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire. Mais nous, on pense qu'au niveau timing, pour eux, c'est quand même assez. Ce qui a entraîné le mouvement des étudiants, c'est qu'ils aient quand même fomenté ce projet de licenciement en plein semestre. Donc du coup, ça a quand même déclenché la colère des étudiants, puisqu'ils sont en pleine activité, alors qu'on a des intersemestres énormes. Mais on suppose que ce qui les a vraiment obligés, en fait, à faire ça dans ce calendrier, c'est que les élections professionnelles, en fait, se profilaient. Elles auraient même dû intervenir fin mars, puisque le mandat des délégués du personnel arrivait à terme. Donc pour rappel, les délégués du personnel actuel sont les délégués syndicaux CFDT. Et ils avaient en fait très peur d'avoir affaire à nous, puisque il se trouve que il y avait de toute façon.
On voit bien que vous avez une certaine audience à l'intérieur de l'école.
Il était évident de toute façon qu'on allait être au moins représentatif et pouvoir nommer désigner un délégué syndical cette fois-ci, et donc discuter avec un délégué syndical, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'avec un représentant de section syndicale, puisqu'à chaque fois qu'on lui refuse un rendez-vous, en fait, il s'agit d'un délit d'entrave, et que ça, c'est rapporté directement à l'inspection du travail. Ouais. Et évidemment, vous pouvez nous faire confiance sur le fait qu'on n'aurait pas manqué de produire des délits d'entrave s'il nous avait pas reçu. Après, on aurait peut-être pu être élu. Bon, la question se posait. De toute façon, on avait fait déjà une action en justice pour relancer le comité d'entreprise dans lequel on s'était tous affichés comme potentiel candidat, ce qui fait que nous sommes protégés aux yeux de l'inspection du travail. Mais au vu du manque de respect pour l'inspection du travail qui a toujours manifester, merci. La direction vis-à-vis de cette inspection du travail, on peut rester quand même très vigilant. Et c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs à nouveau à une manifestation devant l'école spéciale d'architecture le 13 mai, donc demain, à partir de midi. Et on invite évidemment tous les auditeurs à venir nous rejoindre pour nous soutenir, mais aussi pour réclamer la démission d'une direction qui, de toute façon,
s'applique à détruire l'école.
S'applique à détruire l'école.
On le voit. Donc,
et puis, je pense que c'est, enfin, dans ce cadre où on sent bien en ce moment une répression syndicale à tout va, je pense qu'il est important aussi d'aller manifester de toute façon son mécontentement et son aversion de ce type de décision autoritaire qui est insupportable. En fait, on a fait que réclamer l'application des droits fondamentaux des travailleurs, rien de plus en fait. C'est vraiment donc on va essayer de rendre ce rassemblement de lutte festif et libertaire, avec un buffet comme on l'a fait la dernière fois, avec une sono, avec des prises de parole, avec de la musique, et en fait on voudrait plutôt présenter ça comme un pot de départ en fait, mais juste pas le nôtre, en espérant que ce soit le pot de départ de la direction, de la présidence et du conseil d'administration.
Vous avez quand même quelques perspectives sur cette fameuse assemblée générale qui pourrait démettre cette direction, vous entérinez le fait que vous remettrez plus, enfin ça va être compliqué de remettre les pieds. Est-ce que vous avez des démarches auprès de l'inspection du travail? Comment vous voyez le côté aspect là, demain c'est la lutte, et le juridique, le suivi, comment vous voyez la suite?
Alors le juridique, c'est vrai que nous c'est pas au niveau de l'association, c'est pas tellement dans nos démarches, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'on est, on s'est plutôt appliqué à faire un travail syndical, ce qui les a beaucoup dérangés d'ailleurs. Encore une fois, la présidence et la direction actuelle font tout pour reculer. Il y a des échéances de renouvellement au niveau de l'AG et du CA qui devraient avoir lieu maintenant. Les élections devraient avoir lieu, les candidatures devraient être déposées et les élections devraient avoir lieu. Ils repoussent, ils font la sourde oreille, donc il y a effectivement des enseignants et des étudiants à l'intérieur de l'école qui essayent de se battre là-dessus, parce qu'ils voient bien que la direction repousse le plus possible. Ils sont peut-être dans une situation où ils sentent que effectivement ils sont pas loin de éventuellement partir, c'est évidemment pas fait, et le fait de repousser le plus possible pour eux les protège, parce que effectivement fin juin arrive l'intersemestre, la coupure d'été, voilà. Et là ils savent très bien que s'ils restent encore en place à ce moment-là, ils ont 2 mois pour se renforcer avant une nouvelle rentrée, voilà. Donc ils jouent vraiment sur ce timing. Mais là, c'est vrai que c'est pas du tout le terrain sur lequel on est. Et puis, de toute façon, n'étant plus à l'intérieur de l'école, on ne pourrait même pas travailler sur ce terrain-là.
Voilà, donc ceci dit, la lutte n'est pas terminée. Demain, on fête le pot de départ du directeur. Surtout, on renforce la mobilisation et surtout l'information. Sur le site de la CNT, on peut trouver, si vous tapez CNT ESA, vous allez trouver des mails à envoyer au directeur, des modèles de lettres avec les adresses utiles. Vous allez trouver aussi une journée organisée par vous au Vignol le 20 mai.
Le 20 juin,
au Vignol, donc sur ce qui vous anime fortement. Je vous laisse donner l'intitulé.
Alors, on a pour résumer un peu, je vais faire vite, mais ça fait 3 ans maintenant qu'on essaie de faire une sorte de contre-histoire ou contre-culture, on va aller jusque là, de l'architecture et de l'urbanisme, puisque l'enseignement très académique, très capitalistique, très bourgeois de l'architecture à l'ESA nous pose problème en fait. Et du coup, on avait organisé une première journée autour de la lutte contre la gentrification, et contre l'architecture de surveillance. La deuxième avait été consacrée au quartier populaire, exactement, en banlieue, la culture, les formes de résistance en fait dans le quartier populaire de banlieue. Et là, donc, notre troisième journée qui était prévue avant les événements du 9 avril, mais du coup qu'on maintient où on critiquera la ville créative.
On critique le développement durable.
Voilà, exactement, la ville créative, la ville numérique. Et du coup, on invite aussi en dernière partie un spécialiste de la science-fiction qui qui démarchera enfin sur la question de la ville dans le cyberspace et de ce que pourraient être justement les développements les pires de la smart city, puisqu'on parle pas assez des déchets, mais je pense que vous nous en parlerez peut-être un peu plus dans l'architecture radicale. Donc en première partie, la ville créative, elle sera introduite par Jean-Pierre Garnier. Donc notre mentor un peu, puisqu'il était présent quand même sur nos... Donc c'est un ancien donc sociologue urbain, libertaire, qui est un ancien professeur de l'école spéciale d'architecture et qui a été présent pour l'instant sur nos deux premières journées, qui sera là aussi pour la troisième journée. Sur la ville, la critique de la ville numérique, de la Smart Cities, c'est Tom Jo, un militant de Lille, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Enfer Vert, autour de la ville de Lille, et Alain Musset, donc géographe à l'école des hautes études de sciences sociales, qui est plutôt spécialiste de l'Amérique latine, mais dont le dada est la science-fiction, et qui viendra nous parler de la ville du cyberspace, de la ville connectée dans ses derniers jours. Et enfin, un concert de soutien de nos copains de l'Arabia, qui nous proposeront un concert.
Voilà, donc la lutte continue. Dès demain, au 254 boulevard Raspail, rendez-vous à partir de midi devant l'ESA pour un buffet revendicatif, libertaire et festif pour fêter le départ
du directeur. Et après libre.
Et après libre, parce que on peut aussi, vous pouvez aussi adresser des chèques de soutien à la CNT Éducation Région Parisienne, au 33 rue du Vignol, à l'ordre de la CNT Éducation Région Parisienne, en disant au dos soutien à l'ESA. Parce que il y a quand même, pour quelques-uns d'entre vous, des licenciements qui sont plus ou moins actés, enfin voilà, mais pas pour tous. Et donc, de toute façon, on a déjà eu à faire face à des dépenses importantes au niveau juridique et au niveau de la lutte en elle-même, de ce que ça génère. Donc, mais on sait qu'on va avoir face à des dépenses importantes. Donc, voilà, vous pouvez adresser des chèques de soutien, surtout en parler autour de vous, faire savoir ce qui se passe. Venir le 20 juin, oui Stéphane, dis-moi, au Vignol, et venir surtout dès demain, mais si on peut pas, tenez-vous au courant. Il y a aussi un téléphone que vous pouvez contacter, c'est le téléphone de la CNT Éducation Paris, 06 08 78. Je vais le redonner dans l'émission, parce que là, il faut que je le cherche dans mon portable. Où là, vous pourrez aussi avoir des informations et envoyer des mails. Vous allez sur le site de la CNT FTE, Fédération des Travailleurs de l'Éducation, et vous trouverez la lettre, le modèle de lettre à envoyer au directeur de l'ESA pour lui signifier votre mécontentement et que vous exigez son départ immédiat. On a bien compris que vous êtes un petit peu en difficulté, mais lui aussi, on a bien compris que si on intensifiait là le rapport de force, il y a vraiment moyen de le faire dégager. Donc dégageons-le et tout ira quand même beaucoup mieux dans ce monde un peu pénible. Et irrespirable depuis le 9 avril.
C'est sûr.
Hein ? Merci, Greg, Céline, Stéphane, Thierry.
Merci à toi.
Je ne sais pas si vous restez avec nous. Oui, bon, bah, alors on continue, on enchaîne. Qu'est-ce qu'on fait là ? Parce que, est-ce que Pablo nous fait une chronique internationale ou on remet l'Arabia ? Allez, l'Arabia.
On va terminer sur l'Arabia. Allez. On va écouter, c'est une de nos chansons préférées. Je bouffe un riche.
Je suis né au début des années 80. Mes parents firent faillite, j'ai renfé l'exploitant. Quand à la fin des repas je disais que j'avais faim, on me disait mange ta main et garde l'autre pour demain. J'ai jamais bien compris ce que me disait ma mère. Une main ça nourrit pas, y'a que de la peau et des nerfs. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai trouvé mieux à faire. Pour résoudre ce problème d'apport alimentaire, je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Mais
bien sûr, vous allez me dire que tout ça n'est pas très sain. Ils sont tous gros et gras, pour mon cœur c'est pas bien. Mais je tiens à vous dire que ce sont des clichés. Moi j'en connais plus d'un, fin sportif et musclé. Mais sans OGM, dès leurs plus jeunes années. Du ski tous les hivers, du bateau tout l'été. Et pour leur habitat, je crois que vous l'aurez compris. C'est tout sauf de l'élevage en batterie. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde les autres pour la fin. J'ai grandi à l'époque des restaurants du cœur. Il n'y avait plus du bois, d'exploités, d'exploiteurs. On était des exclus, va trouver l'exclueur. Tout ça c'était notre faute, on était des losers. Fallait savoir se vendre, devenir des winners. C'est la loi de la jungle, tu gagnes si t'es un tueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus faim, j'ai plus peur. Quand vient l'heure du repas, je souris de bon cœur. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde l'autre pour demain. Je bouffe un riche, je bouffe un riche, je bouffe un riche, et je garde les autres pour la fin. Si toi aussi tu peines à payer ton loyer, faire du course pour la semaine ou prendre des congés. Si tu sais pas quoi faire pour sauver la planète, si tu as des ulcères quand tu penses aux fouquettes. Si tu veux rendre service aux enfants qui suivront, alors vas-y mon gars, c'est l'heure du gueuleton. Si tu n'as plus de dents parce que ça coûte trop cher, fais le cuir en hachis avec des pommes de terre mère. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche, et garde l'autre pour demain. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche, et garde les autres pour la fin. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche, et garde les autres pour demain. Bouffe un riche, bouffe un riche, bouffe un riche, et garde les autres pour la fin. Bouffe un riche.
89.4, Radio Libertaire, vous êtes bien à l'écoute en direct de l'émission de la CNT Éducation Région Parisienne. Et tout de suite, la parole à Pablo pour la chronique internationale.
Oui, bonjour à tout le monde. Et je vais essayer de faire vite. Et par rapport à la chronique internationale de Jordi, la dernière fois on n'a pas pu le faire. Et juste raconter qu'il y a eu une manifestation contre les violences policières. Et en France et au Mexique, les 4 mai, juste après les 1er mai, qu'il y a eu beaucoup de monde dans la rue, il y a eu des collectifs qui sont investis, des solidarités avec Chiapas, les trois passants, la CNT, etc. Donc ça c'est pour l'historique, ils vont continuer à lutter, ils font un tour, les familles et les étudiants solidaires avec Ayotzinapa en France, donc ils vont être partout en France, c'est le mois de mai, je crois. Donc, il faut juste être au courant des rendez-vous locaux. Et sinon, l'action la plus urgente maintenant, c'est aider à la solidarité. C'est un appel à la solidarité d'un camarade qui s'est fait emprisonner en Russie par l'SKGB, non, il s'appelle FSB, et Alexandre Koltchenko. Koltchenko, c'est un postier de Crimée, un militant anarchiste, antifasciste, qui luttait pour les droits sociaux en Crimée. Et lorsque on lui a obligé à devenir un russe, il a refusé. Donc, du coup, l'État russe lui accuse d'être terroriste d'extrême droite. Donc, c'est aussi délirant ce qu'on vient d'écouter sur le patron de l'école spéciale d'architecture. Mais avec une force encore plus répressive, parce qu'il risque entre 15 et 20 ans de prison, en fait.
Voilà, là, il est déjà en prison.
Il est déjà en prison, il a été déjà une année en prison préventive. Ils l'ont maintenu en prison. Entre les 16 et les 20 mai, on saura quelle est la, si les jeux de l'État Poutine vont nous maintenir ou sortir. Mais bon, on pense dans les collectifs, il y a différentes organisations anarchistes et des collectifs ukrainiens aussi. Et on pense que ça risque beaucoup d'années en fait. Donc il faut payer un avocat, il faut de la mobilisation, il faut vraiment faire une campagne internationale avec des signatures, avec des mobilisations, etc. pour essayer d'obliger à Poutine à lui réduire la peine et éviter qu'il passe 20 ans en galère en fait. Donc voilà, il y a aussi un compte de soutien qu'on a placé chez Solidaire. Il faut juste envoyer un chèque à l'ordre des Solidaires avec au dos un chèque mentionné Kolchenko. Kolchenko, ça s'écrit K-O-L-T-C-H-E-N-K-O. Kolchenko. Et c'est au 144 boulevard de la Villette, et 75019 à Paris. Donc voilà, ça c'est juste pour ramasser l'argent. On est en train de créer des actions. Et le 27 juin, on essaie de monter une action peut-être au Vignoles avec un débat, avec une projection. Et des fois, si on trouve des musiciens, d'ici le 27. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous international pour ce mois de mai et peut-être juin. On aura plus de nouvelles la prochaine émission.
Ok, merci Pablo. Donc, sans transition, on va donc accueillir Marc et Paco pour parler d'écologie radicale contre le développement durable. Et donc, Marc, tu veux te présenter ?
Oui, bonjour. Je suis instit à Paris dans le 14e. Je suis instit en classe avec une classe de CP et depuis pas mal d'années je me suis lancé dans des pratiques d'écologie concrète autour d'un jardin, autour de pratiques de cuisine, autour de réparation, de récup. Et puis petit à petit ces pratiques sont venues un peu en contradiction avec le développement durable. Un mot que j'entendais à toutes les sauces, et jusque dans nos écoles, où on a quand même la semaine du développement durable dans les écoles, qui est devenue maintenant semaine européenne du développement durable depuis cette année. Et donc je me suis dit, attends, là il y a quand même, il y a embrouille, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce que c'est que cette idéologie qu'on essaye de nous balancer au moment où on sait que la crise du capitalisme est de plus en plus aiguë? Et on voit vraiment qu'il y a, il y a une imposture. Et donc le mois dernier, en fait, il y avait un stage à Créteil, un stage de pédagogie alternative, auquel j'avais déjà assisté, et je m'étais quand même interrogé sur le fait que c'était hyper intéressant les autres années, mais la question de l'écologie, elle n'était jamais abordée. Et je pense que cette question de l'écologie, elle est vraiment très importante à se ressaisir pour nous qui sommes des militants contestataires du système capitaliste, qui proposons et qui avons envie de créer des projets alternatifs concrets. Et il faut, à la fois, je pense qu'on aura toute l'heure pour y revenir, contester cette imposture du développement durable et en même temps illustrer comment on peut, concrètement, avec des enfants, grands ou moins grands, puisque après je passerai la parole à Paco qui lui travaille en collège, on peut justement petit à petit parler d'une écologie, une écologie de combat, une écologie humaine, et forcément une écologie politique, parce qu'elle conteste un système dominant et un système destructeur.
Alors Paco, tu veux bien te présenter ?
Oui, alors je suis Paco, je travaille dans une association qui fait des jardins dans Paris, et notamment sur un grand collège, où il y a 4500 m² cultivés. Et avant je faisais de l'agriculture à la campagne, en Meurthe-et-Moselle, en Normandie, en Angleterre. Et donc je suis très proche de la lutte paysanne et beaucoup investi. Et vraiment, en fait, moi, si je me suis tourné vers l'agriculture urbaine et la pédagogie, c'est parce que c'est partant du constat que plus j'en apprends sur la lutte paysanne, plus la situation m'apparaît critique. Et pourtant, dans les villes, dans le discours, on a l'impression que vraiment tout va de mieux en mieux. Donc pour moi, faire une ferme à Paris, c'est un moyen de faire vivre les choses positives de la paysannerie aux Parisiens, que ce soit des enfants ou des adultes, et de leur dire que non, tout va pas de mieux en mieux en fait. tout doucement, tranquillement, que tout va pas de mieux en mieux et que c'est beaucoup de discours et de mots en discours, développement durable, toutes ces choses. Voilà.
Voilà, et entre-temps, Didier nous a rejoint. Didier, tu veux te présenter ?
Bonjour. Eh bien, j'étais instituteur en école maternelle. Et j'ai eu la chance de travailler dans une école du 18e arrondissement qui avait des grands espaces verts. Et dès l'ouverture de l'école, en 82, on a récupéré des espaces et on a fait un jardin pédagogique, un potager, un petit coin avec des aromates. Et puis on a essayé d'introduire des animaux. Bon, ça c'est pour le côté concret. Donc j'ai pratiqué le jardinage avec les enfants en tant que support de multiples activités. Aussi bien autour de l'alimentation, de la biologie. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans l'approche écologique, c'est plus... c'est pas le côté nature. Pour moi, avec la nature, il n'y a rien à faire, comme disait je ne sais plus qui, Bruno Latour. Ce qui m'intéresse, c'est l'écologie dans... l'écologie des personnes, l'écologie des idées, l'écologie comme approche... dans les relations avec les gens. L'écologie, ça serait une démarche où l'important, c'est est-ce que on peut créer quelque chose, des dispositifs, des organisations où les gens peuvent ensemble prendre en charge et se rendre capables d'échapper à toutes les dépendances qui sont organisées dans leur vie. En tant que producteur, consommateur, usager d'institutions, les gens sont passifs. Et c'est vrai que la formation qui est donnée par l'école est complètement axée là-dessus. Être un élève, c'est être quelqu'un de passif qui subit des enseignements, qui subit des jugements, qui subit des évaluations, qui subit tout un tas de normalisations autoritaires qui les dépossèdent totalement de leur propre capacité autonome de création intellectuelle, de création de relations avec les autres, d'échange et d'apprentissage. Et je pense que s'il y a une réflexion... Alors moi, j'aime pas le terme écologie, parce qu'effectivement, d'abord, dans écologie, il y a discours, hein, c'est éco-logos. Je pense que le problème, c'est pas le logos, au contraire. Peut-être qu'il faut se défaire du logos et retrouver la pratique concrète, comme dit Marc. Bon, je vais essayer, j'ai perdu le fil. Pour moi, même la pédagogie est un peu un dévoiement d'une démarche qui sert plutôt, je ne sais pas comment dire, écosophique. Félix Guattari, par exemple, utilisait le terme écosophique, qui est une sorte de sagesse dans l'approche des autres et du monde. Et en finir avec toutes les séparations, toutes les barrières, les fragmentations qui font que de toute façon tu ne seras qu'un usager de quelque chose qui se détermine en dehors de toi et sur lequel tu n'auras surtout jamais aucune prise. Et ben, disons que dans les activités que moi en tant qu'enseignant, alors je déteste ce mot, hein, enseignant, en tant qu'accompagnateur d'un groupe d'enfants qui essayait de vivre des choses et des projets, mon axe directeur c'était ça, quoi. En gros, comment faire que les enfants soient capables de faire des choses par eux-mêmes, qu'ils en comprennent le sens, l'intérêt, l'utilité, et pas leur balancer des trucs voilà, qu'ils sont obligés de faire. Excusez-moi, j'ai été peut-être
Tu n'as pas à t'excuser, c'est passionnant. Et je vois Marc, je vais essayer de pas trop parler parce qu'on est tous là. Hein. Marc, tu veux compléter un peu ou rebondir?
C'est sûr que ce qui est, après, voilà, le mot écologie, c'est vrai qu'il a tellement été récupéré, dévoyé par les politiques. C'est vrai que c'est un mot, maintenant, t'es écolo, voter écolo, ça veut plus rien dire. Ce que j'en retiens, c'est, se reconnecter avec du vivant. Les enfants de nos écoles urbaines, surtout de nos écoles urbaines, ils sont, moi, j'appelle ça des enfants hors sol. C'est-à-dire qui vivent dans des milieux béton, asphalte, beaucoup d'écrans, de vidéos, de technologies qui les fascinent, mais dont ils comprennent rien du fonctionnement et donc on les sent un petit peu dépendants aussi. On l'est un peu tous d'ailleurs. Il n'y a pas que les enfants. Et donc remettre du vivant, c'est
Voilà, c'est moi je vais donner des exemples très concrets. Voilà, ce matin on est allé arroser les radis, on a trouvé 3 escargots, on l'a mis dans le terrarium. Enfin bon, les enfants, oui. Comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Le enseignant, on est accompagnateur d'un groupe d'enfants plus ou moins jeunes. Je suis d'accord avec toi. Le côté enseignant, pédagogue, maître et tout ça, ça c'est très lourd. Remettre du vivant, voilà, c'est aussi les radis, voilà, on va les premiers radis, on va les goûter vendredi. Les fraises, on a vu qu'il y a les premières fraises qui commencent à mûrir. Les épis de blé dans le jardin, eh bien, on le voit déjà, on voit les grains, ils sont verts, mais on sait que c'est du pain qui sera fait à la fin de l'été, en septembre, à la rentrée. Donc ça me paraît très important, voilà, de alors moi j'ai la chance d'être dans une école qui est en bordure du périph, mais qui a aussi, comme l'école de Didier et l'école de Paco, le collège de Paco, on a quand même des espaces verts. Donc on a pu récupérer des plates-bandes, en fait, qui normalement sont des espaces mairie de Paris, pour monter un petit jardin partagé. J'essaye aussi depuis 2 ans de faire des ateliers avec les parents. Donc ça c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle un peu la coéducation. Donc on l'a fait 2 fois cette année, donc le samedi matin. Normalement on bosse pas, donc voilà, mais comme moi il y a des heures de formation que je ne fais pas, donc c'est mon temps de formation. Je donne rendez-vous avec des parents et voilà, on entretient le jardin, on bêche, on arrose avec les enfants, et ça c'est des moments forts, c'est des moments concrets. Et tout d'un coup, on voit des parents avec une bêche, avec un arrosoir, et ils ont la banane. Et on voit qu'il y a des... Plus largement, je pense que il y avait des... Lors du stage, par exemple, à Créteil, j'avais noté quelques phrases. Il y avait l'idée de... Le jardin, c'est aussi collectif. On est tous gagnants dans un jardin. Il n'y a pas de compète, on ne peut pas évaluer. Ou alors si les radis n'ont pas poussé, ou les fraises elles sont fait bouffer par les limaces, voilà. Mais c'est des évaluations très claires, très concrètes. Mais on est tous gagnants. Donc il y a quand même ce côté collectif et participatif qui est vraiment intéressant. Et ce que disait aussi dans le stage, c'est aussi retrouver un autre rythme. On est dans une époque où tout va très vite. Des fois, il y a des choses qui sont intéressantes, mais des fois, on se fait embarquer dans des rythmes qui ne sont pas les nôtres. Or, sans aucune nostalgie de la nature ou autre, mais tout d'un coup, on est obligé là d'accepter d'autres lois, d'autres rythmes, d'autres règles. Alors après, on pourra revenir tout à l'heure sur les élevages en batterie, les OGM et tout ça, tout ce qui est justement forcer la nature pour avoir des poulets qui vont grandir en 3 semaines au lieu de 3 mois et des plantes qui vont... Mais à partir du moment... où on se met en accord avec le vivant, sans trop le trafiquer, c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai appris à l'occasion de ce stage qu'il y avait un pédagogue qui s'appelait De Croly, Ovid De Croly, et c'est lui qui avait, il est connu comme le gars qui avait lancé le mot « jardin d'enfant ». Et au départ, jardin d'enfant, on a souvent entendu « jardin d'enfant », mais au départ, dans son idée, il y avait vraiment un jardin d'enfants, et c'était très important que les enfants... Alors c'était à l'ancienne, c'était au 19e siècle, mais chacun avait son pot avec une ou 2 graines, une ou 2 plantes, avec son nom dessus, et je regarde, j'arrose, ça pousse pas, qu'est-ce qui se passe, trop de soleil ou pas assez, voilà. Donc je pense qu'il avait... et puis après, il y a eu... ça c'était Froebel, pardon. De Croly, lui, c'est un autre pédagogue, il imaginait pas une classe en dehors de la campagne. Pour lui, c'était le milieu naturel qui parlait le plus aux enfants et le plus riche. Freinet aussi, on parlait tout à l'heure de Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, c'était pas à Paris 20e, quoi. C'est aussi, je pense, parce que son école, elle était dans ce lieu, qui a pu avoir cette liberté, qui a pu avoir toutes ces expérimentations avec le vivant.
Voilà. Oui, c'était aussi, on peut le faire à Paris, il n'y a pas de problème. Freinet sortait tous les après-midi faire des promenades pédagogiques. On peut tout à fait sortir à Paris ou en région parisienne tous les après-midi, partir en promenade pédagogique. Il y a quand même énormément de nature à observer. Esther, oui.
Je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a des ateliers pédagogiques pour des gens qui n'ont pas d'enfants, pour ceux qui ne sont plus d'enfants et pour autre type de famille? Parce que souvent, l'éducation est destinée à la famille, mais il y a beaucoup de types de familles. Et je crois que c'est important.
Tu veux dire par rapport à l'école ou en dehors de l'école, du quartier?
En dehors.
Ah oui, il y a plein de... Ben, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais par exemple, je sais qu'à Paris...
Non, il y a ma ferme.
Tu n'accueilles pas que des collégiens.
Ouais, moi c'est vraiment axé vers les adultes principalement. Et les enfants, moi je voulais faire une ferme pour les adultes. Et puis, comme on a trouvé un terrain sur un collège, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, ça va être fantastique. Et donc du coup, je suis allé voir les professeurs et j'ai demandé qui c'est qui voudrait travailler avec le jardin. Et il y a une seule professeure qui a répondu à l'appel, c'était Alice Palot, qui est donc à la CNT. Okay, voilà, ce qui explique ma présence ici aussi. Ouais, voilà. Mais donc du coup, il y a des structures, enfin, il n'y a pas que la mienne, il y a beaucoup de jardins partagés, beaucoup d'associations qui sont sur ce thème-là quand même.
Alors, vous l'avez développé en fait, mais qu'est-ce que vous reprochez au développement durable? Parce que moi, je l'ai appris à Créteil. Moi, j'étais bon. Alors, c'est quoi écologie radicale? Donc, il y aurait une écologie molle, style les verts là, écorope écologie. Et puis donc, il y aurait. Alors, moi, je disais, mais c'est quand même bien le développement durable. Alors, j'ai appris à Créteil que franchement, le développement durable, ça serait un cache-sexe du capitalisme. Alors, expliquez-nous un peu en quoi c'est un cache-sexe du capitalisme, le développement durable. J'ai du mal.
Cache-sexe du capitalisme. Ouais, mais un cache-sexe vert. Faut que ce soit vert, greenwashing. Si tu veux, en gros, c'est surtout le développement durable, c'est surtout on ne pose pas les questions qui fâchent. C'est-à-dire, on ne parle pas du nucléaire, on ne parle pas des OGM, on ne parle pas des manipulations génétiques sur le vivant. On ne parle pas du gaz de schiste, on ne parle pas du problème de l'énergie. On parle de petits projets, économie d'eau quand tu te brosses les dents, changer, mettre des ampoules qui consomment moins. C'est-à-dire, en fait, c'est la responsabilisation des citoyens, si on peut les appeler citoyens, enfin les consommateurs, surtout consommateurs, pour dire, voilà, participer un petit peu avec des petits gestes pour la planète, mais surtout les dossiers important sur l'alimentation, les transports, l'habitat, ça vous laissez aux experts. C'est pas votre affaire. Et nous, les experts, en fait, il y a deux armes un petit peu pour endormir les gens. Il y a soit cette mode du développement durable, comme dirait l'autre, c'est le développement durable de la catastrophe. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de un copain qui dit, voilà, on sait que la nature est en surchauffe, la planète est en feu. Au lieu de se dire comment on éteint l'incendie, donc ça suppose une remise en question de pourquoi il y a le feu, on baisse juste le feu, juste pour que ça déborde pas trop vite.
Ouais, enfin, quand on y arrive, parce que a priori à Fukushima, on n'y est toujours pas arrivé, hein,
bien sûr.
Le feu.
Bien sûr.
On voit bien les limites de baisser le feu.
Ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que entre local et global, entre les petits radis du jardin et aussi toutes les luttes contre les grands projets inutiles, ce qu'on appelle de plus en plus les grands projets inutiles. Donc, il y a déjà ceux en France qu'on connaît, Notre-Dame-des-Landes, Sivens, d'ailleurs, une pensée pour Rémi Fraisse, hein, qui a été, voilà, une victime de la folie du système capitaliste et productiviste, qui veut produire du maïs. C'est insensé de produire du maïs dans le sud-ouest, c'est pas le climat. Donc il faut des réserves d'eau immenses, donc il faut des barrages, encore plus d'eau. Donc voilà, il a été victime de cette folie du système. Mais aussi des luttes dans plein de pays. Il y a des luttes au Chiapas, il y a des luttes en Turquie, le parc Gezi. Ça a été au départ, même si après il y a plein de, je pense, de causes plus sociales. Mais au départ, ils voulaient péter un parc, quoi, couper les arbres d'un parc. Il y a aussi les luttes contre le gaz de schiste, même en Algérie, je crois actuellement, il y a des contestations en Algérie. Donc on se rend bien compte que de manière internationale, il y a quand même une contestation, il y a des luttes contre ce système qui est fou, quoi. Ce système qui, je connais pas grand-chose, mais je lis de plus en plus, je m'informe, système qui risque quand même de nous mener dans le mur.
Alors moi, l'autre question, c'est incroyable. À vous écouter, il y a des espaces possibles pour faire de l'écologie radicale à Paris, dans le 18e, 4 500 m² dans un collège, et toi, dans ta maternelle aussi. Mais comment vous faites? Comment vous faites avec 25, 30 enfants? Comment vous organisez ces espaces de reconquête du vivant pour être non plus passif, mais acteur?
Ça ne demande pas grand-chose. Oui. Quand on veut, on peut. Hein. Non, c'est tout bête, c'est vrai que les idées, c'est pas les idées qui manquent, les idées, il suffit d'ouvrir n'importe quel bouquin, maintenant avec Internet, tu as des solutions pour tout.
Autant il y a des difficultés pour les possibilités de mettre en œuvre des projets, si tu demandes l'autorisation, le droit de... Dès l'instant où tu cherches par toi-même, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, dans n'importe quel endroit, un petit espace, un petit interstice, comme dit l'autre, il y a toujours des lieux disponibles où tu peux faire autre chose que ce qui est prévu par tous les types de normalisation que tu rencontres, de réglementation.
Les programmes
de programmes. Après, je pense qu'il y a toujours des marges de liberté. Moi, j'ai utilisé, c'est vrai que quand tu es instituteur en école primaire, tu peux faire des tas de choses. Vraiment, c'est vraiment possible. Oui. Alors après, nous, on a eu de la chance dans l'école où j'étais. Il y avait de l'espace. Après, il faut de l'organisation. Il faut que tu vois avec tes collègues pour prendre des petits groupes. Bon, il y a tout un tas de contraintes, mais je pense que ça peut se gérer assez facilement. Surtout, comme dit Marc, tu peux faire rentrer les parents dans l'école. Ça aussi, c'est important. Les parents aussi, ils ont des compétences. Chacun apporte ses envies, ses compétences. Et puis une fois que tu as démarré un petit quelque chose, moi je l'ai vu avec les parents viennent, te posent des questions, mais pourquoi vous faites ça? Ah bah oui, c'est bien, c'est intéressant, et la place des enfants, le rôle qu'ils peuvent avoir, les répercussions que ça a. Nous, par exemple aussi sur notre école, on avait choisi comme projet de partir en voyage de classe découverte tous les ans. Et c'était un moyen, par exemple, aussi très fort de mobiliser les parents sur... sur des questions éducatives toutes bêtes, et entre autres celles du jardinage. Voilà.
De les impliquer dans l'école.
Voilà, oui.
Moi, j'aimerais qu'en fait, Pablo me raconte, parce qu'il me l'a dit au stage, j'ai envie qu'il l'aurait dit.
Paco.
Alors, Pablo, oui, il est parti technique, là. Paco, Pablo. Tu nous racontes comment tu fais avec les 30 enfants. Tu me racontais l'organisation, parce que là, on va dire, quand on veut, on peut. Mais franchement, toi, tu m'as bien raconté comment, dans le jardin, 30 gamins pouvaient arriver et tout le monde avait sa place.
Ouais, alors moi c'est des collégiens en plus. Donc c'est des collégiens, c'est un âge spécial. Et moi je connaissais pas très bien les enfants avant. Et je suis assez fasciné par leur fonctionnement. Ce qui me fascine le plus, c'est comment ils se projettent dans un projet. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a convaincu, enfin qui m'a conforté dans l'idée que c'était bien que ce soit sur un collège. C'est que les enfants, ils font pas énormément. Bon, mais tout ce que on a fait ensemble, tout ce que les adultes qui ont participé à l'association, ils ont fait, et ben les enfants, ils se le sont appropriés. Et ça veut dire que je sais pas si c'est une haute connaissance profonde de ce que c'est que un collectif, mais en tout cas, même si dans la participation, quand ils travaillent, ils courent plus, ils rêvent plus, ils crient plus, ils se battent plus avec des outils, mais c'est pour jouer. Et bah, au final, quand ils regardent les champs, et bah, ils disent « Quand même, Paco, là, on a bien bossé. Hein. » Et peu importe le degré de participation, il n'y a pas besoin de les fouetter pour qu'ils soient forcément... sage et obéissant.
Ils passent tous la même chose.
Voilà. Oui. C'est une grande barre, quoi. Et moi, je trouve ça impressionnant avec les enfants. C'est quelque chose d'étonnant qu'ils me disent ça, quoi. Qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont fait. Même s'ils s'approprient des choses, et c'est bien. Moi, je trouve que c'est très bien. Donc, voilà, le mode opératoire, c'est simple. Quand j'en ai 5, ça va très bien. Après, j'en ai eu 10. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'ai fait 2 groupes de 5. Ça marchait beaucoup mieux. Après, à 15, bah, j'ai fait 3 groupes de 5. Bon, ça allait bien. Et puis, bah, maintenant, j'ai arrêté les 3 groupes de 5. Je fais 2 groupes de 5 qui travaillent. Et moi, je discute avec les autres en regardant ceux qui travaillent. Et voilà. Donc, discussion, travail. Ils sont pas là pour travailler forcément, on fait plein de choses autour de ça et ils ont plein de questions touchantes, plein de réflexions intéressantes et voilà.
Tu disais que tu t'organisais des pôles dans un jardin, par exemple il y a ceux qui vont pouvoir bêcher quand c'est l'époque, d'autres vont pouvoir jouer, tu racontais bien ça.
Ah oui, ouais, bah ouais, parce que c'était des espaces interdits dans le collège en fait, il y avait la cour qui faisait la moitié de l'espace extérieur et l'autre moitié qui était un espace interdit. Donc voilà, maintenant, il jouait tout le temps au chat à la souris, c'était interdit, il se faisait punir, et moi j'en ai vu se prendre des heures de colle, tout ça. Donc maintenant, moi je les accueille, et je dis oui, ils sont avec moi, et au fur et à mesure que je les accueillais qu'ils venaient avec moi, et bah, finalement ils sont vraiment avec moi en fait. Donc c'est plutôt les élèves qui ont des petits soucis avec l'autorité qui viennent vers le jardin. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà.
D'accord, donc en fait, oui, on voit bien, c'est peut-être plus une réorganisation sociale des relations, y compris mettre à bas l'impératif de production. Quand on vous écoute, c'est vraiment, il n'y a pas de hiérarchie, chacun s'autodétermine. Enfin, en tous les cas, on essaie de tendre vers ça. Vous êtes là, bienveillant, parfois certainement à rappeler deux, trois petites choses au passage.
Sur l'usage des outils, on ne piétine pas les plates-bandes fraîchement.
Et ça, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on court et qu'on fonce.
Non, c'est vrai que je peux devenir, là, on est tous faibles. Hein, et moi, le premier, aujourd'hui, j'ai un élève qui a sauté sur les plates-bandes et je lui ai crié dessus, après je m'en voulais et tout, j'ai fait non, c'est pas les plates-bandes. Et ouais, voilà, donc on a des réflexes comme ça de pulsion de mais j'essaie de me contrôler un peu.
Ouais, mais je discutais justement avec une collègue, Pablo nous parlera peut-être des rassemblements qu'il y a eu aujourd'hui et de la grève pour les mineurs isolés, mais ça m'a permis de discuter avec une collègue à qui je disais pareil, bon, ça m'arrive quand même de crier sur mes élèves, mais c'est Oui, mais ceux qui ne crient pas sont bien plus redoutables, parce que comment font-ils pour se faire écouter, hein? Donc, il faut peut-être se lever un peu de culpabilité. On n'aime pas ça, c'est pas notre mode opératoire, mais c'est vrai que de temps en temps, quand même, on est là aussi, voilà, avec ce qu'on est. Donc, moi, en vous écoutant, en fait, je trouvais que finalement, écologie, c'était peut-être quelque chose qui correspondait pas vraiment, comme tu l'as dit Didier, à ce que vous mettez en place. Et moi, avant l'émission, j'ai pensé à Élisée Reclus, qui je vois Paco qui fait comme ça, qui est donc un géographe qui a été vraiment reconnu dans sa discipline, qui se revendiquait anarchiste. Au 19e siècle et qui donc en fait à l'époque, enfin jusqu'à très récemment, l'anarchisme reprenait à son compte complètement l'écologie et c'est quand même très nouveau, c'est quand même une création, on a l'impression un peu comment t'as dit,
artificielle,
ouais, voire même électoraliste,
oui.
De ce qu'on oui, alors vas-y Marc. Politique.
Ben non, mais non, mais c'est vrai que tout d'un coup, ce que j'ai aimé sur l'intervention de Didier, c'est que en fait c'est vrai qu'on se rend compte que on est des êtres très très clivés encore, enfin on l'est peut-être naturellement, mais le système nous sépare encore plus. On sépare nos lieux d'habitation, nos lieux de travail, les lieux où on va s'approvisionner, les lieux de production. Et c'est vrai que autour d'un jardin ou d'un espace partagé comme ça, tout d'un coup, bon, c'est des petites touches, mais on arrive un peu à rassembler. Et on voit que les enfants... Alors, j'ai une chance aussi. Je pense à un ami ce soir qui n'est pas là, qui s'appelle Charlie. Petite pensée pour lui. Il n'a pas pu venir, mais c'est l'animateur avec lequel on a monté le projet sur l'école. Et lui, il a une vision très poétique du jardin. Il dit, le jardin, déjà, il dit... Moi, je sais qu'il dit j'ai une vision un peu productiviste. C'est-à-dire, moi, je veux des légumes. Ça me fait plaisir comme ça. Lui, il dit c'est le jardin, c'est là où l'enfant, il doit pouvoir rêver. L'enfant, il doit pouvoir faire silence ou jouer. Alors, pas courir et abîmer voilà, les plantes fragiles, mais c'est aussi un endroit qui peut être de calme, de silence. On se reconnecte avec autre chose. Alors, nous, on a quand même le bruit du périph' juste à côté. Donc, c'est quand même pas le silence des montagnes et de la campagne. Mais c'est une vision intéressante. Et c'est vrai que tout d'un coup, en fait, l'écologie, c'est en fait une, peut-être refaire une cohérence ou des liens avec tous ces espaces de la vie, ces espaces-temps et ces espaces géographiques qui sont peut-être de plus en plus morcelés. Et on se rend compte que... Et c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'enfants pour qui aller au jardin... Moi, j'ai des élèves qui sont... des petits qui sont assez speed. Et souvent... ça, alors, on n'y va pas, bien sûr, moi j'y vais pas avec toute la classe, pareil, comme Didier, on a un système pour y aller à 6 ou 7, ou alors quand on y va à toute la classe, je fais des donc il y a un coin jardin, un coin lecture sous les arbres, un coin vélo, parce qu'on a aussi un petit atelier vélo, donc, mais on peut pas aller à 25 dans 5 ou 6 plates-bandes, quoi. C'est un peu difficile au niveau, voilà, espace, circulation. Mais souvent, les élèves, les plus agités, un ver de terre.
une fraise, une coccinelle, une fourmi. Oh là là, magnifique. On s'arrête, on se met à quatre pattes. On a des loupes, alors on regarde. Et c'est vrai que tout d'un coup, c'est une école contre un peu contre l'évaluation, les résultats productifs, contre le productivisme. Quoi. Tout d'un coup, bah, c'est et les peut-être ce que vit l'enfant, ce qu'apprend, peut-être c'est des choses qui le ressortira ou qui sont, je sais pas, comme des petites graines, quoi, qui sont semées, qui germeront peut-être bien plus tard, quoi. On espère, mais je pense que c'est un autre rapport au temps et à l'espace.
Est-ce que vous pensez que l'institution scolaire, à travers par exemple les dispositifs comme Main à la pâte, Charpac, le fait qu'en France on s'est aperçu que du coup nos élèves sont tellement passifs que le domaine où il faut être actif comme les sciences était un petit peu abandonné. Alors cette mode d'avoir son petit jardin dans chaque école, sa petite mare, est-ce que c'est pas une prise de conscience un peu de l'institution par rapport à ces élèves trop passifs qui s'énervent en classe, qui courent partout et qui savent plus ce que c'est qu'un petit radis qui pousse? Non.
C'est possible, sauf que aucun moyen concret n'est mis en place. Si c'est vraiment une volonté politique, il n'y a rien qui suit derrière. Rien. Rien. Il y a un petit quelque chose qui suit, mais ça dépend à 90% de la municipalité. Il se trouve qu'à Paris, la mairie de Paris a décidé d'investir assez massivement, il faut le dire, parce que moi, en 30 ans, j'ai vu le passage de rien à pas mal de choses. Enfin, à partir du moment où Delano est arrivé, où les Verts sont passés à jouer à la mairie 8e, par exemple, les Verts permettent au conseil municipal que des tas de projets soient discutés, soient votés, acceptés. Donc maintenant, c'est budgétisé. Et à Paris, c'est vrai qu'on est assez gâté. Ce qui n'est pas du tout la même chose au niveau du territoire national. Puisque on a eu des retours au stage, par exemple, de personnes qui, au contraire, pour oser amener des animaux à l'école ou faire du jardinage, se trouvaient traités de sectaires écologistes, prosélytes, et virés de leur école. Ouais. Comme,
et on leur refusait une copine, oui. On leur refusait les autorisations.
Voilà, pour et bien d'autres. Donc, faire des sciences à l'école, je pense que c'est une politique qui a été mise en place, oui, par la main à la pâte ou d'autres, mais c'est dans une optique un peu opposée, radicalement opposée, à la vision qu'on défend en tant que libertaire. C'est vraiment la vision scientiste telle que tu la trouves à la Cité de la Villette, c'est il faut aller se confronter à quelque chose qui est de la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire comment les scientifiques qui sont les experts vont pouvoir faire passer au public un certain nombre de résultats de l'activité scientifique qui, de toute façon, se décide, se programme en dehors des gens qui sont des simples usagers et qui n'auront pas leur mot à dire en quoi que ce soit sur qui finance quoi, pourquoi, quelles orientations, quel programme de recherche, non.
Oui, c'est vrai que c'est très consumériste, de toute façon, quand on va à l'espace enfant de la
science. Et les programmes sont conçus comme ça. Mmh. Et quand tu regardes aussi les bilans d'évaluation qui sont faits auprès des élèves, c'est une catastrophe. Moi, j'ai vu PISA, par exemple, les questions qui sont posées à PISA. Alors, il y avait une question sur les OGM, c'était très marrant, mais la question, c'était pas est-ce qu'il y a un intérêt pour les OGM? Qui développe les OGM? Pourquoi les OGM? Non, c'était uniquement sur l'acceptabilité du public, uniquement dans ces... Voilà, tel que c'est formulé. Est-ce que les résultats qui se décident quelque part... en dehors de vous, sont acceptables ou pas? Comment faire passer auprès du public quelque chose qui se décide par des scientifiques, des experts, pareil, toujours le même problème.
Avec des lobbies politiques, économiques, surtout.
Économiques qui détiennent voilà, les clés de la bourse.
Paco, tu voulais...
Oui, déjà, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on n'appuie pas toujours sur tout ce qui est économique. Et, ça, c'est très loin de... des problématiques et des enseignements qui sont à l'école. Mais donc ce que je voulais dire, c'est que C'est l'exemple du ver de terre qui pour moi est assez instructif sur le développement durable. C'est vraiment un tout petit truc, mais c'est, il y a plein de, dès qu'il y a un enfant, ils vont un ver de terre, ils me font, oui, le ver de terre, il sert à enrichir la terre, le ver de terre, il sert à ça, oui, le ver de terre, on l'aime bien, oui, la coccinelle, on l'aime bien, elle sert à manger les méchants insectes. Je fais, non, voilà, c'est vrai qu'ils font ça, ils remplissent une mission, mais ils ne servent pas à ça. Donc ils existent, quelque part, le ver de terre existe, la coccinelle existe, et il se trouve que dans leur vie, ils vont manger des pucerons, et ils vont manger de la terre, ils vont faire caca du compost. Donc voilà, mais donc, on est vraiment dans une visée utilitariste, la coccinelle sert à ça, le ver de terre sert à ça, et toi, tu vas servir à ça bientôt. Voilà. Donc je pense que, voilà, ce qu'on disait par rapport à la mairie de Paris, c'est que moi, factuellement, il y a des espaces libres où on peut faire des choses. Donc, au moins de les saisir, même si, voilà, pour essayer d'enrichir un peu le dialogue et d'essayer de compléter un peu le discours qui, si on se l'approprie pas, voilà, on va être comme les vers de terre et les coccinelles. Alors que, voilà, si on crée des espaces où on est là pour discuter et essayer de faire prendre conscience aux enfants qu'ils ont une liberté et que ils peuvent se développer, ils peuvent espérer avoir ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà, je pense que le jardin, il peut servir à ça. Et il faut qu'on s'en saisisse, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent très bien s'en servir pour leur faire comprendre d'autres choses. C'est un outil comme un autre et il peut très bien être dévoyé, quoi.
Marc ?
Oui, sur ce que tu disais par rapport à la mairie de Paris, moi, je serais quand même beaucoup plus critique. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais je vais donner un exemple très clair dans mon école. Au mois de janvier, on a vu des petites pelleteuses arriver dans un endroit du parc, creuser des tranchées. Et donc, il y a des jardiniers, dont certains sont depuis 30 ans sur l'école, que je connais. Et ils disent, tiens, c'est bizarre, ils vont faire des travaux, ils vont faire passer des nouvelles canalisations. Bon. Et en fait, on a vu un mois plus tard arriver un énorme camion avec des petits arbres fruitiers. Et il y a eu tout un projet, donc la mairie de Paris en a fait, je crois, dans 5 ou 6 écoles de Paris, un projet, ça s'appelle un verger dans mon école. Donc, l'exemple, donc personne n'était au courant, ni les jardiniers qui sont là depuis 30 ans, ni certains enseignants et animateurs qui travaillent justement sur les projets d'écologie concrète et pratique, absolument rien à foutre. C'est un projet complètement parachuté. Ils ont planté leurs 20 arbres fruitiers. Et ils étaient même pas, petit détail croustillant, ils étaient même pas, une fois qu'ils ont fini de planter les arbres, ah oui, au fait, où est le point d'eau ? Ils n'avaient même pas pensé au point d'eau. Alors quand même, les jardiniers ont dit, bah les gars, il y a des points d'eau là, mais vous auriez peut-être pu nous le demander avant. Et même eux, les jardiniers, ont dit, mais nous, on l'aurait pas, si vous nous aviez demandé, les arbres fruitiers, on les aurait pas plantés là. Parce que là, ils seront trop à l'ombre, et voilà. Donc c'est aussi l'exemple, si tu veux, très, là, on est dans le cœur de l'histoire du développement durable, on se donne bonne conscience, on crée des potagers pédagogiques, des vergers pédagogiques, c'est bon. Pour l'écologie, on a fait le geste pour la planète, mais c'est le même gouvernement qui nous défend le nucléaire, qui nous défend les OGM. On sait encore, ça freine un peu, mais comme le gaz de schiste. Enfin voilà.
Ça freine pas les OGM, ça vient de passer, j'ai vu.
Oui, voilà.
En avril, tu vois. Exactement. T'as 20 OGM qui sont autorisés en France.
Voilà, c'est un peu moins massif. Disons, c'est un peu moins massif que dans certains pays. Voilà. Ouais. Mais donc c'est très hypocrite. Tu vois, et c'est les mêmes qui vont nous faire Notre-Dame-des-Landes avec l'aéroport qui est complètement inutile, ces grands projets inutiles. Donc d'un côté, il y a un peu le côté, si tu veux, voilà, image, voilà, on défend un peu la planète, les petits enfants, machin, qui vont aller planter, arroser des potagers et cueillir des fruits. Et puis de l'autre côté, on détruit et on bastonne.
Didier, tu veux que je parle?
Oui, moi, parce que
ouais, d'accord. Heure, ouais. Ah ouais, Didier, il me signale qu'il faudrait terminer l'émission. Merci Didier. Tu peux venir quand tu veux à l'animation. Parce que c'est vrai qu'on a besoin, trop on est toujours
non,
très.
On va pas se lancer, il faudrait qu'on fasse.
Mais c'est vrai que non. Moi, ce que je voulais dire, c'est que vous avez raison. Il y a des espaces et c'est à nous. Vous l'avez dit comme ça. C'est à chacun de s'en emparer. N'empêche qu'on en est toujours là. C'est à chacun de s'en emparer et que malgré tout, bon, toi tu l'as dit, Marc, mais la pression qu'on subit quand même 24 heures sur 24 en tant qu'enseignant, c'est pas trop de savoir si on a bien emmené les enfants à la promenade pédagogique ou au jardin poétique pour savoir s'ils ont bien pu
se ressourcer et penser par eux-mêmes et avoir leur temps de décision collective dans la semaine. C'est pas ça du tout. La pression qu'on a sur 24 heures sur 24, c'est est-ce qu'on a fait le son bas, est-ce qu'on a fait la division au CE1, est-ce qu'on a fait les déterminants au CE1, est-ce qu'on a commencé les dictées au CP. Enfin, voilà. Donc, en termes de prise de conscience de l'institution, effectivement, c'est vraiment une vitrine qui en plus écrase les plates-bandes. Sans aucun scrupule, ils ont 20 arbres fruitiers à planter, ben voilà, c'est une belle image de... Oui, vas-y, Paco.
Et dans l'école qui est à côté de mon collège, ils ont carrément, il y avait une prof qui avait un jardin partagé et la même équipe est venue planter les arbres et ils les ont plantés sur le jardin partagé de la prof. Si, elle est revenue, en fait elle les a vus en train de planter, elle a dit attendez, je vais chercher de quoi dépoter mon romarin et tout, au moins... Elle est partie chercher ses outils, et elle est revenue avec les outils, et ils avaient déjà fait le travail, ils ont fait « Ah non, on n'avait pas le temps, là ».
Ouais, c'est des petits Notre-Dame-des-Landes, finalement, hein.
Moi, ça m'est arrivé deux fois aussi, en 30 ans, deux fois, mon jardin pédagogique a été entièrement détruit. 150 mètres carrés, rasé.
Voilà. C'est ça.
Un jour, tu arrives le matin, il n'y a plus rien. Tu ne sais pas pourquoi.
Oui, parce qu'il y a tout le combat aussi des normes européennes. Il faut sécuriser les espaces pour les enfants. On a aussi d'autres instituts qui, dans des écoles, se battent pour qu'il n'y ait pas de barrières trop hautes pour pouvoir accéder à leur petit jardin potager. Ou qu'ils ne soient pas bétonnés parce qu'ils ont décidé là de mettre justement quelques radis.
Oui, alors je rassure tout le monde et surtout j'informe les auditeurs que ce soir, nous n'avons pas le gong qui va tomber à 30 piles. Donc on va peut-être déborder de 5 minutes, mais pas plus. Ne serait-ce que pour profiter des 5 minutes qu'on va pouvoir prendre puisqu'il n'y a pas d'émission juste après. C'est ça, Léo ?
C'est ça.
Voilà. Donc, mais juste, je crois que Marc voulait encore prendre une minute...
toujours pour taper sur cette imposture du développement durable. Donc le rectorat de Paris, par exemple, en ce moment, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, donc propose une série d'ateliers. Alors par exemple, de l'amphore au conteneur, du papier au nouveau plastique, biodiversité en milieu aquatique, ressources minérales, acidification des océans. On voit bien quand même qu'on est toujours...
C'est Total qui subventionne.
Alors ça, Total, je la garde pour Maud Fontenoy, si on a une minute. Non, mais c'est pour montrer que jamais on est toujours dans des sujets assez consensuels. Qui est entre guillemets, qui est contre se poser des questions sur l'acidification des océans. Évidemment, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Par contre, sur l'alimentation, sur les transports, sur les OGM ou même les ondes dans les villes. Non, ça, c'est un sujet un peu compliqué, mais voilà, il y aurait des sujets qui impliqueraient beaucoup plus nos qualités de vie. Et ça, on n'en parlera pas. C'est donc voilà un exemple de le développement durable à l'école, c'est un peu ça.
Ouais, les seuils de pollution largement dépassés, voilà. Hein, et qu'on est tous là en train de
près
crever.
Du périph,
ouais. Voilà, et on continue de rouler tous en voiture, enfin pas nous évidemment, mais ça change pas grand chose finalement. Enfin si, au niveau de notre quotidien, quand on arrête d'utiliser la voiture, franchement ça change tout. Hein. Ça c'est une certitude, mais on est quelques privilégiés à vivre dans la région parisienne, à pouvoir le faire, parce que partout ailleurs, sans voiture, c'est impossible. Hein. Est-ce que vous voulez rajouter ? Oui ?
Non, il voulait parler de Maud Fontenoy et voilà, Total, ça, alors allons-y.
Voilà.
Anecdote.
Puisque là, on était, donc un exemple, il y avait les 7 exemples du rectorat de Paris qui proposent des ateliers, on va dire, très, très tièdes, inoffensifs, mais il y a des choses, entre guillemets, plus insidieuses. C'est par exemple le cas de Maud Fontenoy, donc, qui était une sportive de haut niveau, je crois qu'il a battu le record de traversée de l'océan à la rame, enfin bon, un truc un peu inutile, mais bon, elle a des gros bras. Sarkozyste de choc. Et alors, elle a monté une fondation pour la défense et la protection des océans. Et donc, comme elle a plein de thunes, parce que derrière sa fondation, il y a HSBC, Carrefour, EDF, Orange, Bolloré, Pinot, Dassault. Et donc, elle a un site, et donc les écoles peuvent gratuitement obtenir des kits pédagogiques. Donc ça vous coûtera pas un radis. Des kits pédagogiques pour sensibiliser les enfants à l'importance de la qualité de l'eau, éviter le gaspillage, les problèmes de pollution. Voilà, et donc on a là l'exemple de la plus totale hypocrisie, et par ailleurs c'est quelqu'un qui a soutenu le nucléaire, c'est quelqu'un qui soutient l'exploitation du gaz de schiste, je crois qu'elle a eu des propos aussi très durs sur les RMistes et les chômeurs, voilà, qui foutent rien, et c'est elle, voilà, c'est ce genre de personne, si on y prend pas garde, on aura dans les écoles, eh ben on se retrouvera avec le kit pédagogique dans la classe, Maud Fontenoy protège la planète, avec tout évidemment le grand capital derrière, quoi. Donc le développement durable, c'est aussi quelque chose de dangereux il faut rester vigilant, parce que petit à petit ça va arriver dans les écoles, ça va arriver dans les classes, quoi. Comme les fabricants d'ordinateurs qui à un moment sponsoriseront, fourniront gratuitement, qui veut un PC, qui veut des écrans, c'est gratuit, on vous les offre, quoi. Donc faut rester très vigilant là-dessus et critique.
D'accord. Bon, bah alors donc, je pense que on commence à être un peu convaincus. Est-ce que vous avez, vous pouvez donner l'adresse de la ferme, voilà, s'il y a des gens qui ont envie tout de suite de mettre en pratique pour arrêter d'être dans le discours.
Ah ouais, qui veut venir vient. Vous êtes les bienvenus. C'est à Porte de Bagnolet, un peu plus haut en allant vers Porte des Lilas, une rue parallèle au boulevard extérieur, donc c'est la rue Levaux et c'est au 24, c'est le collège Pierre Mendès France. Et le mercredi, c'est le jour principal, c'est bien pour une première présentation, c'est le jour où j'accueille tous ceux qui veulent venir, et après moi je donne mon numéro, on se retrouve d'autres jours et tout, mais là c'est sûr que j'y suis, que je suis pas dans mes serres, que je suis pas sur un autre terrain ou quoi, voilà.
D'accord, on peut y aller, qu'on soit adulte, enfant, ado, pré-ado...
Tout, ouais.
J'y viendrai jamais mercredi. J'y viens mercredi prochain, sûr.
Voilà.
Bah au moins, t'auras fait un adepte. Bon, bah, merci Didier, Paco, Marc. Et on vous revenez quand vous voulez, hein, parce que effectivement, il y aurait encore énormément de choses à dire de nos pratiques et de nos recherches et de nos réinventions. Léo? Tu nous fais les rendez-vous.
Les rendez-vous des luttes. Alors quelque chose qui va certainement tous nous intéresser, et on voit bien là cette hypocrisie du développement durable et la folie du système d'autre part. Demain, mercredi 13 mai, on aura l'occasion de discuter avec les occupants et les occupantes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui viendront nous parler de la lutte sur le terrain aujourd'hui. On ne sera pas du tout dans une perspective historique, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et puis surtout des perspectives à venir. Ça sera la caserne de Reuilly, 20 rue de Reuilly, et dans le 12e arrondissement. Mardi prochain, c'est à 19h.
Ah bah on peut faire le rassemblement à l'ESA, et après on va à la caserne de Reuilly.
Avec la caserne de Reuilly.
C'est génial.
Joli programme. Mardi prochain, le 19 mai, la grève contre la réforme du collège qui est prévue pour la rentrée 2016. Donc rapidement, qu'est-ce que nous dit cette réforme? On nous parle d'autonomie des établissements. Un bien joli mot, l'autonomie des établissements, mais ne nous y trompons pas, c'est l'autonomie des chefs d'établissement qui pourront moduler à leur guise les horaires disciplinaires et beaucoup d'autres choses, et absolument pas l'autonomie des équipes pédagogiques. Et puis ça pose la question du collège unique aussi, cette autonomie. Et puis,
on a vu ce que donnait, excuse-moi Léo, l'autonomie des facs.
Oui, voilà.
C'est dans le même topo. Il n'y a plus de crédit, tout tombe en lambeaux, c'est l'entrée du privé et des lobbies de Total.
Et les rassemblements aussi, ils se rassemblent. Il y a 2-3 universités, ils en font une. On réduit les administrations.
Oui, c'est le nouveau concept d'autonomie. En fait, on rassemble en 2-3 pôles gigantesques.
Donc il y aura peut-être 2-3 primaires à Paris, une primaire à Montreuil. Ce sera bon ça.
Excusez-moi Léo.
Et puis non, il y a un joli mot, quoi, l'autonomie. Et puis il y aura aussi des heures d'accompagnement personnalisé et d'enseignement de pratiques interdisciplinaires, les fameuses EPI. Donc sans rentrer dans les détails, on peut juste rappeler qu'on ne va pas développer l'autonomie en renforçant la hiérarchie des chefs et des chefaillons. Et puis on ne va pas non plus encourager le travail en équipe en maintenant les inégalités de statut et puis les contrats de merde. En ce qui concerne bien évidemment les jeunes isolés à la rue, les élèves en situation de handicap, les contrats précaires, etc., bah, y a rien. À ce sujet-là, il y a le mercredi 3 juin, une grande fête pour l'abolition de la précarité dans l'éducation nationale. Ça sera de 14h à 19h devant le rectorat de Paris, 94 avenue Gambetta. Et donc, pour tous les contrats de merde, les auxiliaires de vie scolaire, les contractuels, les accompagnants des élèves en situation de handicap, les assistants d'éducation, etc. Donc, grande fête pour l'abolition de la précarité dans l'éducation nationale. Qu'est-ce que je peux vous dire à nouveau? Ben, peut-être, ouais, le triste anniversaire du meurtre de Clément Méric. Il y aura une grande manifestation contre tous les racismes et les violences de l'extrême droite. Ça sera le 6 juin à Bastille, 14h.
Et rappelez quand même qu'aujourd'hui, il y avait quand même une action sur les mineurs isolés.
Ouais.
Bah, Pablo,
ouais.
Et il nous qui dit quelques mots sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, puisqu'il y avait un appel à la grève, des manifestations.
Pablo, oui, non, c'est était, juste. On était assez nombreux dans la rue des mineurs et des professeurs, devant les rectorats et devant les CASNAF qui voulaient faire des tests osseux. On a fait une grève avec les syndicalistes, pas trop les syndicats comme d'habitude, la CFDT ne fait rien. Les autres, ils sont toujours présents par un, deux personnes. Donc c'est toujours à la CNT de déposer les préavis, de mobiliser, etc. Sauf les camarades qui militent à la CGT, etc., qui sont dans les lycées concernés et qui sont très très touchés. Donc demain, il y a aussi à 18h à la Bourse de Travail une réunion de collectifs qui donnent des nourritures à ces élèves qui dorment dans la rue, etc. Et je pense qu'on va continuer à faire des luttes pour lutter contre pour ne plus tolérer que la scolarisation universelle n'existe plus en France. C'est ce qu'il veut faire la mairie des gauches de Paris actuellement. Donc, bien sûr, on est contre ça. On veut que tous les élèves qui sont mineurs qui soient à l'école, indépendamment de s'ils sont accompagnés ou pas, indépendamment de s'ils ont de l'argent ou pas, si leurs certificats sont différents ou pas, en fait. C'est juste une question de principe. La scolarisation, ça va être universel pour tout le monde. Voilà.
Oui, rappelez pourquoi ils font des tests osseux. Dis-le, pourquoi aujourd'hui on fait des tests osseux pour ne pas...
Oui, pour les tests osseux, en fait, c'est juste pour une excuse de « on ne vous assure pas la scolarisation et maintenant on vous fait subir », c'est ce que les anarchistes, les communistes, les juifs, ils ont subi pendant des années, non, de se faire mesurer les os et faire des, comme les esclaves les dents, en fait, c'est encore l'énième manière du capitalisme et de l'Europe des frontières de traiter les Noirs comme des esclaves, en fait.
Voilà, et de les déclarer majeurs pour se dégager de toute obligation de scolarisation et de prise en charge à quelque niveau que ce soit, santé, hébergement, même travail. Puisque, en plus, ironie, enfin vraiment macabre, c'est que leurs papiers disent qu'ils sont mineurs, et c'est une réalité, c'est vrai, ils ont des papiers où ils sont mineurs, donc ils ne peuvent pas aller dans les foyers de jeunes travailleurs, parce que les foyers de jeunes travailleurs ne prennent en charge que les majeurs, et pareil, ouais, voilà, donc c'est... Voilà, donc il y a ce rendez-vous demain à la Bourse du Travail, donc 3 rue du Château d'Eau, à 18h, métro République, pour continuer la mobilisation et renforcer là aussi les liens de solidarité pour, comme disaient les camarades de l'ESA, faire respecter le minimum des droits humains, qu'on soit travailleur ou jeune mineur isolé. Voilà, merci tout le monde. J'avais juste envie de vous parler d'une grève, de faire un petit côté interpro. Apparemment, il y aura une grosse grève le 21 mai à l'APHP, donc dans les hôpitaux, puisque un nouveau ministre, Martin Hirsch, enfin pas ministre, excusez-moi, directeur de l'APHP, donc Martin Hirsch, issu d'Emmaüs, enfin le caritatif de service, qui maintenant, en tant que caritatif, il trouve qu'il faudrait quand même bien dégraisser les hôpitaux, qu'il y a quand même un lobby économique à respecter. Apparemment, c'est une énorme réforme. Je vous en dis juste un tout petit mot. C'est que il propose tout simplement de supprimer 5 jours de RTT sans contrepartie, et pourquoi pas, puisque on trouve tous que c'est important de se faire prendre en charge par l'hôpital, pourquoi les salariés ne feraient pas un petit effort, après tout, voilà. Donc une grosse mobilisation se prépare, donc soyons attentifs, allons au-devant de nos camarades grévistes, ça va être
J'espère, voilà, l'étincelle qui va faire qu'on va tous se coordonner dans nos luttes et faire que ça change. Comment il disait l'Arabia ? Il faut que ça change. Oui.
Bon. Il va falloir que ça change.
Il va falloir que ça change. Ben, à partir du 21 mai, la PHP donne le signal. Voilà. Et juste aussi, je vous dis que le mois prochain, je peux déjà vous annoncer l'émission du mois prochain. Ce sera un camarade qui s'appelle Suno, qui viendra nous présenter avec peut-être aussi d'autres camarades avec qui il milite, puisque vous avez tous compris qu'ici, on ne fait rien tout seul. On est tous reliés les uns aux autres et c'est ce qui nous fait vivre et penser. Et agir. Suno viendra certainement avec d'autres gens nous présenter son projet de centre documentaire libertaire et paysan. Ok, voilà. Okay. Et donc ça sera une belle continuité. Donc vous pouvez revenir le mois prochain tous pour continuer sur la lutte contre le développement durable et pour une réappropriation de nos vies sans barrière, que ce soit d'âge, de travail, de nature. Voilà. À bas les murs. Merci à tout le monde.
Merci.
Merci. Puis là, donc au prochain deuxième mardi du mois.
Oui, je me souviens plus la date exacte.
Je sais plus non plus. Et puis un petit merci, un grand merci même aux auditeurs qui nous écoutent et qui nous appellent pendant l'émission. N'hésitez pas, c'est un plaisir de discuter avec vous.
Okay. Au mois prochain. Salut.
Огромный грошечный твой.